Ouais. On a l'apparence d'être prêt, mais on n'est pas prêt du tout. Il faut que j'enlève Nightbot qui est en train de nous annoncer les invités d'hier soir dans l'hebdo Étienne, dernière de la saison. Ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Enfin, pas l'hebdo Étienne, mais le fait que on est les invités. Il faut que j'aille sur Nightbot. Ouais, petit. Ah, Nightbot est en train de se charger. Bonne nouvelle. Je pense qu'il est un petit peu flemmard. C'est le week-end. Pas facile. À moins que ce soit ma connexion. Ah, d'accord, ok, Nightbot met à peu près 2 heures à s'ouvrir, c'est formidable. C'est un... Ah, allez mon petit chouchou, on va dans les timers. Ah, ouais, effectivement, j'ai pas enlevé tout ça. Et hop, Disable. Et c'est bon. Ah, les thèmes, on les thèmes aussi. Oh là là là. Les thèmes, voilà. Normalement, c'est bon. Là, on est prêt. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose, c'était bien hier. Avec Paloma Moritz, la journaliste, avec Camille Diao, la journaliste, avec Jean Massier, le streamer, et on le rappelle, le gagnant de la dernière Zilan. Et ceux qui étaient là, est-ce que vous vous rappelez du dernier? L'ami, t'as plus de voix haute, ça va Samuel? Ouais, les pollens, c'est rien du tout. L'ami Thierry Moreau, bien sûr, voilà. Et donc, il y avait encore tout le bravo, vous avez gagné. J'y fus. Merci Electrip 45. Moment de panique à l'instant, enfin de panique, ça fait longtemps qu'on ne panique plus ici, bien sûr. Tant on maîtrise toute l'ingénierie de Twitch, OBS, les câbles, les trucs. À l'instant, je lance le stream un peu à l'arrache comme d'habitude. Ok, l'image ça va, le son ça va pas. La musique je l'entends, je commence à... Entre deux musiques, je lui dis j'arrive, je ne m'entends pas dire. J'arrive, je ne m'entends pas. Et là, je vois que ça ne module pas. Là, sur Defcon, on est à Defcon. Je ne sais pas si les plus jeunes, vous n'avez pas la ref. Je ne sais pas si on est à Defcon. Je ne sais pas si plus on monte, plus c'est grave, ou si on descend, c'est plus grave. Ça se jouait entre 1 et 5, je crois. Defcon 4. Ouais, c'est ça. C'est un vieux film, je crois que ça s'appelait War Games. C'est très longtemps. C'est marrant d'ailleurs, c'est comme un ordinateur. Ah, vous avez la ref. Ouais, c'est ça. Defcon 1, c'est le pire. C'est ça. Plus c'est bas, c'est dangereux. Il y en a qui ont la ref. War Games, c'était un film il y a longtemps. Hein. Vous n'étiez pas né. Ou un ordinateur dont la passion était de jouer aux échecs et accessoirement de simuler des guerres nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Enfin, l'URSS à l'époque. Et à un moment, il prend le contrôle et il se dit, allez, je vais vraiment lancer la guerre, quoi. Voilà. Arme 83. Voilà. Il joue au Morpion aussi. Oui, c'était pas aux échecs, c'était au Morpion. Tu as raison. Sauf qu'on me dit, faut croire que Defcon, ça n'est pas qu'un jeu, c'est un vrai niveau d'alerte. Ok. C'est vraiment une échelle de niveau de défense. Bordel, je me doutais bien que c'était aussi un vrai truc. Hop, je vais réchauffer un peu la lumière. Oh là 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 là, c'est presque trop. C'est presque trop. Donc, là, on est sur Defcon 1 avec Mathieu Broderick, et ouais, tout jeune. Et là, je me dis, il n'y a pas de son. Là, je me dis, ah, c'est rien. La table de mixage a dû bugger un petit peu. Je vais la relancer, je vais l'éteindre, je vais l'allumer, on va couper le son, ça va être drôle. Et là, je regarde mon micro. Et je vois ça. Ouais, comme ça. Donc, je pense que vous avez bien suivi les explications. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on rigole. Till Paris, j'ai connu War Games, film mythique, un petit peu daté, mais de nouveau d'actualité. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Donc, voilà, le câble du micro était débranché, puisque ce micro m'a servi dans l'émission d'hier. Que t'es la dernière de la saison, l'hebdo Étienne. On en a fait 34. On a fait 34 hebdo Étienne. Yes. Voilà. Avec le soutien... De France Télévisions hein, pour me donner les petits moyens pour mener cette émission Ah bien, et je suis super fier de ça, voilà, de ces 34 émissions. Et merci à tous, à ceux qui ont participé dans le chat, à ceux qui l'ont regardé, et puis aux modos aussi qui ont eu du pain sur la planche, il faut le dire, puisque évidemment ici on parle de sujets d'actualité qui parfois qui fâchent. Et c'était bien hier. Et donc on en a fait 34, on a invité plus d'une centaine de personnes, quand même. Voilà, enfin je dis on à un moment, arrêtons de remercier tout le monde. Oh, hein. J'ai invité une centaine de personnes, puisque. La prog, c'est moi la programmation. Et puis de toute façon, je veux laisser personne parce que je sais exactement qui je veux recevoir chez moi. Des gens que j'aime, qui m'intéressent, dont je suis le travail, tout ça. Et voilà, je me suis vraiment régalé cette saison. Y aura-t-il une deuxième saison? Brian, where is Brian? Brian is in the chat. Et Brian nous pose la question. To be or not to be, est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Et j'ai envie de dire... Je crois que oui. Je crois que oui. L'envie est là, hein, parce qu'en fait, l'émission est bien née, comme on dit dans notre jargon. L'émission est bien née. On l'a, voilà, je suis content des petits aménagements, enfin, de la formule qu'on a trouvée, mais je pense qu'on peut faire un peu mieux. Donc, tant que le truc n'est pas parfait, on va continuer à la faire. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Il y a Minos qui me dit quelque part, tu as l'envie d'avoir envie. Oui, j'ai l'envie d'avoir envie. Donc, j'ai envie de poursuivre cette émission. Qui me demande du boulot, mais qui est cool. Donc, on repartirait pour en gros 32 émissions l'an prochain, quoi. Ça repartirait fin août, début septembre. Petit conditionnel, puisque bien sûr, il faut juste que je trouve le partenaire, le parrain qui va m'accompagner un petit peu pour me donner les moyens pour faire cette saison 2. Je pense que ça va le faire. Voilà. Mais a priori, saison 2. A priori, a priori. En vrai, je suis méga triste qu'il n'y ait plus d'hebdo Étienne pendant 3 mois. Me dit Nat, ça va faire un vide dans ma vie. Alors moi, ça va me faire du repos surtout. Aïe, il y a Joe qui est là. Vouf. Comment ça va, Joe? Et donc ça, c'était cool. Et puis Nat, sache qu'on ne va pas s'arrêter. On va arrêter de streamer en juillet 3 semaines. C'est tout. That's it. On va streamer jusqu'à la fin juin. Après, on fera une petite pause de 3 semaines. Après, on va reprendre fin juillet, dernière semaine de juillet. On va streamer tout le mois d'août. Là, je parle essentiellement de Matine Etienne et de revue de presse. Voilà, quasiment tous les matins. Hein. Petite presse le matin, puis l'après-midi avec les enfants pour se balader un peu en région parisienne, les parcs, le soleil, les musées, tout ça. Ça va être cool. Et puis au mois d'août, on va surtout préparer la rentrée. Sur Twitch, où là on va envoyer tellement du bois avec Joe qui est là, et on a donc l'hebdo Étienne qu'on veut poursuivre, et puis il y a l'émission de gaming baptisée nom de code Defcon. Non, c'est pas vrai, Sam Play, c'est vous qui avez choisi, donc voilà, c'est très boomer, c'est très claqué au sol, j'adore donc ce nom d'émission, Sam Play, avec une petite faute, puisque normalement c'est Sam Plays, mais Sam Plays, ça, la blague ne marche plus. Donc Sam Play. Émission sur le gaming, toutes les semaines, j'ai pas choisi le jour, encore. Toutes les semaines, on reçoit un gamer, un gameuse pour jouer à son jeu favori, et il me le fait découvrir parce que je n'y connais rien, et c'est tout l'intérêt du truc. Un gars qui a pas joué depuis 1988 et qui subitement plonge, s'immerge, se délecte de l'univers des jeux vidéo et toute sa richesse. Il y a Alastair qui dit ça me plaît, c'est au-delà du claqué au sol. Exactement, c'est tout à fait le principe. Donc, ça va être une régalade parce qu'en gros, l'idée, vous l'avez compris, le pitch, bon, il est marrant. C'est un gars de 52 ans qui n'a pas joué depuis 30 ans, ou 35 ans même, je crois, aux jeux vidéo et qui se dit, putain, l'univers, il est quand même. Il s'est un peu enrichi depuis cette époque. Et donc, découvrons-le avec curiosité, avec envie, avec un petit peu de fascination même. Et ben l'idée, c'est qu'on fasse 32 émissions, 32 jeux, 32 rencontres, et on va kiffer, quoi. Voilà. Donc là, on en fait deux, un peu de test. Bon, sur la forme, ce sera un petit peu brut de décoffrage, hein, mais on en fait deux là, vendredi prochain, avec Kayane, la gameuse qui viendra jouer avec nous à Street Fighter 6. Donc c'est ma première invitée de l'émission. Et les vendredis suivants, idem, voilà. Donc dans la case de l'hebdo Étienne, Kayane la semaine prochaine, et la semaine suivante, un autre joueur ou une autre joueuse avec un autre jeu que je n'ai pas encore défini, quoi. Voilà, c'est pas mal, hein? Voilà. Je ne serai pas à TwitchCon, Andrea, désolé, parce que je serai en vacances en famille à ce moment-là, dommage parce que j'aurais bien aimé, en vrai. Voilà, c'est pas mal le programme des prochains mois. Et peut-être d'autres projets sur Twitch, mais là, ce n'est qu'au début du développement, donc, c'est pas la peine de vous en parler parce que je suis pas encore sûr de pouvoir les faire. Toujours des histoires de pas tellement d'idées et d'envie, mais plutôt de trouver les partenaires, bien sûr, quoi. Voilà. Mais on discute, on bosse, quoi. Julo me demande, le visuel sera annoncé quand pour la bêta de Samplay? Il faut que je m'en occupe. Je n'ai absolument pas commencé à réfléchir à ça. Je n'ai pas commencé à bosser sur le visuel, c'est vendredi prochain. Je n'ai pas trouvé encore mon invité et mon jeu de la semaine d'après. J'ai aussi un stream, autant vous le dire, ce sera à Rennes. Voilà. Une dernière exposition Étienne, musée expo en juin, là dans pas longtemps, dans vraiment pas longtemps du tout. J'ai l'expo, ça va être magnifique, on va se régaler. On va y aller avec la poussette de stream, mais j'ai pas encore trouvé l'idée de l'invité, du streamer, de la streameuse qui va m'accompagner. Donc voilà, la matinale de France Info tout le mois de juin et tout ça à gérer en plus. Donc voilà, ça va être bien chargé, quoi. Vous êtes plusieurs à me parler du mercato et de France Info. Vous avez peut-être vu passer effectivement un article du Parisien et plein d'autres articles qui reprenaient en fait les infos du Parisien. Je n'ai pas encore communiqué là-dessus. Enfin, je me réserve quelques jours éventuellement avant de commenter cette information que vous avez lue sur le Parisien ou sur Internet. Voilà, j'y reviens plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas réagi officiellement à ces informations. J'adore parce que je suis en train de totalement parler comme ma politique, quoi. J'adore. Pour l'instant, je n'ai pas réagi officiellement à ces informations. Je me réserve le droit de le faire. Dans les prochains jours, je vous en tiendrai informé. Merci à tous. Hein ? C'est terrible, putain. J'ai trop bien écouté les politiques ces 30 dernières années, quoi. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, vous avez vu ? Tu te prépares pour les élections. Moi, je suis chaud, là. Hein ? Vous avez vu le ton, là ? Hein ? Hyper crédible. Là, plus personne n'a envie de me demander, quoi. Hein ? Fin de l'histoire. Au revoir, VGE. 81. Beaucoup de mots pour absolument rien dire. Je suis pas d'accord, dromadaire. C'est beaucoup de mots, oui, mais pour dire que pour l'instant j'en parle pas. Donc je dis un truc. Je dis que je ne dis rien. Voilà. Et profitez de l'eau parce qu'un jour on n'en aura plus. Hein. Un jour on n'aura plus d'eau. Hein. Donc voilà. Les jeunes n'ont pas la ref. C'est VGE en 81. Il est battu par Mitterrand à la présidentielle. Donc il ne fait qu'un mandat. Donc il est un peu déçu. Surtout qu'il était persuadé de gagner. Et de repartir pour un deuxième mandat, Valéry Giscard d'Estaing. Et donc il fait un discours d'adieu à l'Élysée, aux Français, et il fait une faute dont tous les communicants se sont régalés. C'est que, bon, à l'époque, bon, on maîtrisait un peu moins le langage audiovisuel et l'utilisation de ces médias. Et VGE fait son truc, voilà, en mode un petit peu austère, quoi. Et au lieu, les gars, au lieu d'envoyer le générique. Je vais vous montrer. Au lieu d'envoyer le générique, il dit au revoir. Et il se lève et on le voit partir de la pièce avec la porte qui se ferme. C'est super chaud, quoi. Voilà, au revoir, on va le voir. Ah, quelqu'un me dit, et il se gourde de porte en partant, si mes souvenirs sont bons. Ah, je sais plus. On va suspense, on va voir. Au revoir. Si tu tapes au revoir sur... Tout ça pour voir sur YouTube, je pense que c'est directement... C'est ça ou c'est directement... Même pas. Big Flo et Oli... Ah, quand même, j'ai eu peur. Alors, j'ai toute la... Est-ce qu'on se tape les 8 minutes de leur voir présidentiel? Peut-être pas. Attendez. Ah, j'adore parce que plein ont des souvenirs. Il y a des vieux ici, hein. John Doe, les 20 pas les plus longs de la télévision française. Viens ici, petit YouTube, toi. Viens par là, mon petit chouchou. Voilà. Il se lève avec une certaine difficulté, même. Pense se souvenir renifleur de paix. C'est donc là l'origine de ce même Jack Dalton. Mais oui, je vais te montrer. Anonyme 31 croit se souvenir que la porte de sortie était hors du champ de la caméra. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite, quoi. Eh ben, on regarde. Trop bien ! J'adore, on va confronter les souvenirs à la réalité. Valéry Giscard d'Estaing, 1981. Au revoir.
Vis-à-vis des uns et avec une chaude reconnaissance pour les autres. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux.
Il a le seum un peu, hein.
Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde.
Où le mal rôde et frappe dans le monde. Pff, c'est du Verlaine, quoi.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
C'est marrant, parce que la Providence, c'est un concept religieux, hein, chrétien, c'est marrant. C'est une autre époque.
Pour son bien et pour sa grandeur.
On dézoome, et là on envoie le générique. Hein. On envoie le générique. Mais bah, pas du tout. Au revoir. Oh putain. La chaise vide, comme la vacance du pouvoir, quoi. Il n'y a plus personne. Voilà. En fait, c'est plus que le au revoir et le fait qu'il s'en aille. On sent qu'il hésite un peu. On va revoir le move un petit peu. C'est la chaise vide, après.
Pour son bien et pour sa grandeur.
La petite pause. Le silence.
Au revoir.
Les micros sont pas coupés. Là, il hésite. Ah, on part à gauche. Tout ça, c'était la chaise vide, là. Oh putain, mais il y a combien de secondes de chaise vide? C'est énorme. Attendez. Oh, j'adore. Je m'en rappelais pas que c'était si long. J'étais jeune, j'avais 81. J'avais 10 ans. Attendez, la chaise vide, c'est combien? La chaise vide. Oh, il est 7,43, là. Chaise vide, 7,43. Et il passe sur le drapeau à quasiment 8,40. Ok. Il y a une minute de chaise vide. Alors, vous, tout le monde connaissait ou pas? On t'envoie de la force, Mimille, pour ton examen de stats. Je comprends rien aux statistiques, mais rien du tout. Alors, nos souvenirs sont pas très bons au final. Bah, c'est normal, hein. C'est vieux en fait. Et en fait, on était un peu. Voilà. Moi, je pensais qu'il y avait une porte, qu'il prenait une porte, quoi. Voilà. Il faudra mieux la chanter le jour de ton élection. Commande Space Saturn, vous n'avez pas tous la ref, mais une partie du chat est dans la confidence, puisque nous préparons ici bien plus que des streams de revues de presse le matin, bien plus que des émissions d'actualité, des émissions de gaming. Nous préparons une candidature secrète à la présidentielle de 2027. Chut. Voilà. Et donc, cette maîtrise de la Marseillaise que vous venez de constater à l'instant, évidemment, ce n'est pas innocent. Je suis en train de préparer Bon, merci. The Black Crow. Merci, je lis ton message qui me touche beaucoup et je suis content que ça aille. Que ça aille mieux a priori. Merci à toi. Ouais. Candidature secrète dont toute la France est au courant, c'est un chouette concept, estime écrivain. Toute la France, pour l'instant, ça n'est pas sorti de Twitch. Hein. Hein. Ouais. Mademoiselle Bébé, franchement, la Marseillaise a donf avant même d'avoir pris mon café. C'est hardi. Nous sommes hardi ici. Nous sommes hardi. Voilà. Nous ne sommes pas hardissons, ça non. Mais nous sommes hardi. Oui. C'est vrai que c'est un peu la signature de ce stream. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, nous, comme le dit John Doe, nous sommes hardi et pourtant nous sommes samedi. Ce qui est incroyable. Hein. Ouais. Bon, vous, comment ça va? MMG7F et. Bon Castelet, merci pour le 20e mois, ça claque. Merci Spou, le pseudo Skadskarparmal. Non. Skadskarparmal pour le 20e mois d'abonnement, j'espère que ça va. Merci beaucoup pour le Psyum pour le 5e mois d'abonnement. Mister Ced, ou Mister peut-être Ced d'ailleurs, pour le 7e mois d'abonnement. Merci. Rosen, ça j'aime bien. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Fatal Cédric Doldeon. C'est une molécule chimique, ça, non? Merci pour le 21e mois d'abonnement, on n'est pas loin du maxi. Goblou, merci pour le Prime. Comment ça va, vous? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On lit les journaux, et puis après, je fais un truc... j'ai rien compris. Je participe ce midi à un forum sur les sciences cognitives. J'ai dit oui parce que j'aime beaucoup l'une des personnes qui participe qui a organisé même ce forum, membre d'une famille que j'aime beaucoup par ailleurs, et donc ça donne ça. J'ai tweeté ceci hier: je participe demain à un forum sur les liens entre sciences cognitives et le jeu, voilà. Venez nombreux, et pour être honnête, je dis, je n'ai strictement rien compris à la phrase que je viens d'écrire. Alors j'ai retweeté ça ce matin parce que je suis assez fier de ma blague, en fait, le fait que je comprenne rien à rien, ce qui n'est pas très nouveau. Il y a des gens qui y sont, puisqu'il y a Chad Show qui dit: tu vas voir, c'est super stylé, ça va être drôle. En vrai, je déconne, hein, je pense que c'est super. Voilà, donc je remets le coup, je remets un petit tweet ce matin. Quel dialogue! Moi j'adore le dialogue. Certains aiment les gâteaux, le chocolat, la choucroute, la tête de veau. Moi j'aime le dialogue. Quel dialogue entre jeu et sciences cognitives! Je participe au forum Brain Play qui se tient aujourd'hui à la Sorbonne. Let's go. Pour y assister, vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez vous inscrire ici pour participer. Et hop, c'est là. Et d'accord, hop, du coup, on va aller voir. Top, tu t'inscris. Voilà. Tu prends ton clic, ta souris. Voilà. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Moi, je suis déjà inscrit. Et hop, si tu remontes, tu as toutes les explications. Forum Brian Play. Quel dialogue entre jeu et sciences cognitives. Fâche, ils vont pas être déçus quand ils vont voir le vieux machin qui comprend rien débouler. 3 juin, c'est aujourd'hui. Sorbonne Université, Paris 5e. Qu'est-ce que la conférence Brain Play? Bah tiens, ça m'intéresse parce que. Pas trop bosser, moi. Un événement organisé par les étudiants et étudiantes en psychologie cognitive et ergonomie de l'Université Paris Cité. En vrai, c'est pas vrai. J'ai parlé avec une des organisatrices et j'ai posé plein de questions. Je n'ai pas tout compris, mais il y a des trucs quand même. Une journée dédiée à l'exposition et la vulgarisation des liens entre le jeu et les sciences cognitives. Espace de rencontre pour les différents acteurs des secteurs du jeu et de la cognition, chercheurs, professionnels, etc. Tiens, vous savez quoi, on va lire ça ensemble comme ça. C'est un peu moins débile tout à l'heure. L'apport du jeu aux sciences cognitives. Depuis plusieurs années, l'utilisation des jeux s'étend dans divers domaines, des ressources humaines à la santé. Ah oui, c'est vrai. On parle des serious games notamment, hein, j'en ai parlé avec des candidats de questions pour un champion. L'utilisation des jeux s'étend dans divers domaines, RH, santé. Certaines entreprises tentent par exemple d'améliorer les techniques de recrutement par l'utilisation de jeux issus de la recherche scientifique. Okay. Et moi, les prochains mercato avec l'expérience de gamer que je vais me faire, là, ça va être la dinguerie. Hein. Hein. Concernant la prise en charge thérapeutique, des protocoles de soins par le jeu visant à réduire les symptômes de certaines pathologies neurodéveloppementales comme le trouble du spectre de l'autisme ou de l'attention ont été développés et testés scientifiquement. Ah, pour lutter contre les troubles de l'attention, L'autisme, on commence à utiliser des jeux, protocoles de soins par le jeu. C'est vachement intéressant, quoi. L'apport des sciences cognitives au jeu. Je connais ça. Je connais ça. Ça, c'est. Je connais ce jeu vidéo. Attendez. Parce que je suis en train de bosser sur l'histoire du jeu vidéo. Ça, c'est. Ouais, je connais ça. C'est Mario Kart. Ouais, ça, c'est Mario. Ah, c'est. Ouais. Tu vois, je commence à maîtriser un peu le sujet. Mario Kart. L'apport des sciences cognitives au jeu. Les retombées théoriques des sciences cognitives ont permis d'améliorer l'expérience des utilisateurs dans la conception des jeux vidéo. Ah oui. Qu'est-ce que les sciences cognitives apportent au jeu? De la couleur des icônes aux vibrations dans la manette, l'UX designer permet aux joueurs de vivre une expérience positive et compréhensible. Mon interlocutrice pour ce forum m'a expliqué qu'effectivement, dans les grosses boîtes de développement de jeux vidéo, et en fait, il y a des spécialistes en sciences cognitives qui accompagnent la création du jeu en donnant des conseils sur, par exemple, oui, la couleur, les couleurs, les graphismes. Là, on parle des vibrations de la manette, par exemple. Un jeu doit également comporter un certain nombre de récompenses et de punitions. Ramasser un objet, recommencer si on meurt. Un exemple de leur utilité, de l'UX en général, les jeux Fortnite. Fortnite, par exemple, ah, ça, je savais pas. Qui a largement tiré profit des conseils de Célia Audan, docteur en psychologie cognitive. Je crois que Célia Audan, le docteur Audan, elle est là d'ailleurs. Elle est là aujourd'hui. Ah, elle a bossé sur Fortnite. Vous saviez ça, vous? Microsoft à la pointe en la matière, me dit Caradoc. Chez Ubisoft, il recrute un UX, je crois. Ah. Nico Manga, vous saviez pas ça? Quand j'ai dit tout à l'heure, je reconnais Pac-Man, ici, Mario Kart, je tiens à préciser que c'était du troll. Hein. Enfin, je savais que c'était. Que c'était Pac-Man, quoi. Non, juste une petite minorité dans le chat, c'est parfois les gens un peu bizarres. Qui n'ont pas compris qu'une phrase sur deux, c'était du caca ici. On est comme ça. Alors, le programme talk du matin. Donc, les talks du matin, si je suis bien, c'est le matin, hein, 9h30, 12h30. Voilà. Il y a aussi thèse en synthèse. Oh, c'est génial. 11h35, midi 5, en 3 minutes maximum, plusieurs doctorantes se succéderont pour présenter le sujet de leur thèse. Ah, j'aurais voulu voir ça. Bon, mais je serai en stream. 14h, 17h30, talk de l'après-midi. Voilà. Et, oh là là, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Oh là là, de Dieu. Quiz cognitif. Quiz sur le jeu et les sciences cognitives présenté par Samuel Etienne pour vous inscrire, rendez-vous ici. Voilà. Et effectivement, il y a un quiz. En fait, c'est question pour un brain play. En gros, et donc je vais poser plein de questions. Il va y avoir un 9 points gagnant, il va y avoir un 4 à la suite, il va y avoir un face à face.
Oh yes!
Ouais, et c'est moi qui vais présenter tout ça tout à l'heure. Voilà, c'est vachement bien. Il y a les ateliers robotiques, il y a un atelier de réalité virtuelle, il y a un atelier jeu de plateau, il y a un atelier neuromytho, un trivial poursuite qui casse les mythes sur les sciences cognitives. C'est vachement intéressant. C'est plein de brain, hein, cette histoire. Hein. Les intervenants. Oh, c'est moi! Ah, oh, je suis là! Ouf. Camille Sauvin, Olivier Morin, Hippolyte Cobet, Samuel Etienne, 13-14 h. C'est moi. Ah, bah, comme ça, je sais combien de temps ça dure. Je me demandais combien de temps ça durait. 13 h, 14 h. Bon, je vais pouvoir aller voir les enfants après. C'est cool. Romain Rouillet, Gwendoline Garand, Lina Estelle Louis et Célia Audan, qui a donc bossé sur. On lisait tout à l'heure sur. Mince! Sur c'est qui? Sur. Fortnite! Voilà. Ah, c'est cool. Hein. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est bien en vrai, hein? Voilà. Ben, je suis content d'en avoir parlé avec vous, comme ça me un peu rafraîchi la mémoire sur cet événement qui tient donc à la Sorbonne. Voilà. Vous avez, si ça vous intéresse, si vous voulez participer, je vous ai mis le lien sur Twitter. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Vrai, hein? Sorry, mais qui et pourquoi t'a-t-on invité, mademoiselle bébé? Parce que, question pour un champion. Question pour un champion n'est pas un jeu vidéo, pas encore, mais c'est un jeu en fait. Et donc quand on parle du lien entre les sciences cognitives et le jeu, c'est le jeu au sens large. Je pense que c'est aussi les échecs, c'est aussi les jeux de culture. C'est aussi les jeux vidéo, bien sûr. Et donc, c'est à titre de présentateur de questions pour un champion. C'est un petit jeu qui existe depuis 34 ans. Voilà. Qui cartonne, en fait, des audiences de malades voilà, sur France 3. Voilà. Quelle vivacité d'esprit chez Samuel Etienne. Je sais que tu te moques, PB, PPBB 54. Je sais que c'est une, je sais que tu me trolles. Je le sais. C'est samedi, j'ai pas beaucoup dormi, donc... Leak le jeu vidéo question pour un champion. Non, en vrai, non. C'est pas vrai. C'est un faux leak. Et non pas un frolic. Pour ceux qui ont la ref, mais pour ça, il faut avoir un chien. Bon, c'est pas tout ça. On va lire un peu les journaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Frolic, ça existe encore. Ok, c'est formidable. De quel format événement parle Samuel, s'il vous plaît? Je viens d'arriver, je ne comprends pas, dit Azerkan. Bon, on va recommencer pour toi. Je participe à un forum ce midi à Paris sur la sexiness à la télé. C'est-à-dire, la sexiness, c'est le fait d'être un peu sexy, sensuel, quelque chose d'indicible dans le regard, dans la posture, dans la façon de bouger, un peu féline. Voilà. Et donc, il se trouve que notamment les hommes et les femmes d'écran, de télévision, de stream, de YouTube, certains ont cette qualité que les scientifiques, c'est un concept anglo-saxon, appellent la sexiness. Donc je participe à ce forum pour parler de ma propre expérience. Pourquoi suis-je sexiness? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que je l'ai travaillé? Voilà, donc c'est un forum qui est à la Sorbonne avec des grands spécialistes internationaux de la sexiness. Et je vais en parler tout à l'heure à partir de 12h30. Voilà, pour le petit résumé. Merci Ronan, non, pour le 22e mois d'abonnement. Merci Grim pour le petit message. Voilà, donc si la sexiness vous intéresse, même si vous savez très bien pourquoi moi j'en fais partie, je crois que c'est évident, cette image se passe de commentaires, eh bien rendez-vous à la Sorbonne tout à l'heure, quoi. Ok, il y a Chico qui se la raconte. Ma fille est à la Sorbonne. Ma fille est à la... genre au détour de la conversation. Ma fille est à la Sorbonne. Oui, bon, ça va. Hein? Hein? Hier, je suis allé courir 3/4 d'heure. J'en fais pas non plus. Hein. Félicitations, Chico, je plaisante. Tellement bon que tu peux faire passer n'importe quelle fake news, je te dis. Oui, c'est pour ça, Ravinou, que je me prépare à une campagne présidentielle et à une carrière politique. C'est parce que je pense que je maîtrise assez bien le... Les carabistouilles. Est-ce qu'il y aura des hot tubs sur place? En fait, toute la conférence se déroule dans un hot tub. C'est un hot tub géant. Et toute la conférence se tient dans un... Voilà, il y a des piscines à boules, il y a plein de choses. Voilà. Venez. Venez. Yoaskan, je l'ai ta blague. Non. Non, tu ne me feras pas répéter ce qui s'est passé hier. Tu ne me feras pas répéter que tout... qu'hier, alors que j'allais voir mon dermatologue pour lui monter mes grains de beauté comme chaque année, pour être sûr que je ne vais pas me prendre un gros cancer de la peau vu que j'ai prévu de streamer l'année prochaine. C'est un truc que je vous conseille pour ceux qui ont des peaux un petit peu à risque, bien sûr, il faut montrer régulièrement ses grains de beauté, tout ça, les trucs un peu bizarres à son dermato, puisque les cancers de la peau, on sait les traiter, mais on sait les traiter si on les prend très très tôt. Et donc je vais voir mon dermato tout comme tous les ans. Il se moque un peu de moi parce qu'il voit que je suis un peu crevé, je raconte un peu n'importe quoi. Et puis donc je me déshabille, je garde mon caleçon quand même pour qu'il inspecte tout ça. Et là il marque un temps d'arrêt. Un long temps d'arrêt. Il me regarde comme ça. Il me scanne. Mode Terminator un petit peu. Il me demande si je suis... Si ça va. Et là, il me regarde. Et, voilà. Et faut savoir qu'il est assez fit, très sportif. Assez passionné de sport. Et il me dit... Vous faisiez du sport avant, non? Parce que je me souviens, vous étiez assez fit quand même avant. Oh nom de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'a empêché. Peut-être le fait que je ne suis pas très en forme. Il m'a fait rire. En plus, je l'adore. Il me fait rire. On parle de tout et de rien. Il est super gentil. Il est super curieux. Il est super sportif. Et on parlait beaucoup de sport avant. Et donc là, il s'est bien foutu de ma gueule. Je sais pas s'il a voulu me dire, hey, monsieur Etienne, faut pas se laisser aller, quoi. Et donc je lui dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, hein, voilà, les cuisses, comment dire, qui ont un peu fondu, les bras qui pendouillent, le ventre, n'en parlons pas, quoi, je ne vois plus mes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, Twitch. J'ai découvert Twitch. J'ai découvert le stream. Voilà, j'ai arrêté le sport. Comme un pacte faustien, Twitch m'est apparu dans la nuit, espèce de truc mauve, comme ça. Comme ça. Et il m'a dit, tu veux percer? Tu veux comprendre les arcanes de cette plateforme, de ce nouveau mode d'échange et de communication? Tu veux t'adresser à une nouvelle génération? Moi je dis, dans mon rêve. C'est une espèce de Satan, c'est une espèce de diable. Des petites cornes qui me dit ça. Il avait une guitare, c'est très bizarre. Et moi je dis, ouais, comme ça, à peu près. Et il me dit, ok, mais alors, il faut en payer le prix. Je fais comme ça. Je fais, ouais. Et il me dit, tu vas arrêter le sport. Et je fais, oh non, non, mais non, parce que après. Et voilà, je me suis réveillé. Et bim. Voilà. Ouais, le diable, c'était Rayou. C'est vrai, bordel! Putain, c'est de sa faute! Putain, mais bien sûr que c'est de sa faute! C'est étoile! Ah, petit saloperie! C'est lui, putain! Mais c'était lui! Mais maintenant, c'était lui! Je vois son visage, je vois son air sardonique! Oui, ah, mais oui! Mais maintenant, ça me revient, c'était lui dans mon rêve! C'était lui qui m'a fait découvrir Twitch! Ah, l'enfoiré! Incroyable! Ouais. Étoile, le petit démon, Rayou, le prince des ténèbres, comme vous le dites dans le chat. Samuel en roue libre dit Julo. Non, ça va, je suis bien. La bonne nouvelle. Il y a 47 Alexia qui a écrit dans le chat. Samuel, tu n'es pas seul. J'ai appelé ma grand-mère à la maison de retraite. Cette semaine, elle fait plus de sport que moi, à savoir 5 km de vélo par jour. J'adore. Non, la bonne nouvelle, c'est pour ça que j'en parle en riant beaucoup, parce que bon, j'ai quand même vu. Moi, j'ai fait du sport quasiment tous les jours pendant 30 ans. Voilà, un peu accro à la course à pied, un peu bigorexique à un moment, un peu accro au triathlon. Voilà, c'était bien mon kiff quand j'étais un peu moins occupé professionnellement, et du coup, ça m'a bien occupé aussi. Voilà, ça m'a fait, puis ça m'a, voilà, bien marré. J'ai rencontré plein de super potes de course à pied, de triathlon, c'est des belles aventures. Et puis, j'ai totalement arrêté en septembre. Totalement. Je suis passé de tous les jours à zéro pour pouvoir dormir et travailler, quoi. Un petit peu. Enfin, dormir un petit peu, travailler beaucoup. Et donc, et j'ai vu qu'est-ce que c'était de passer d'une vie assez équilibrée sur le plan physique avec, ouais, du sport, quoi, et l'arrêt total. Et j'ai vu que voilà, au début le corps voilà, ça tient à peu près, quoi. Et puis après, vous voyez, ben voilà, la masse musculaire qui fond, voilà, le petit ventre tranquillement, vous pouvez baisser vos apports alimentaires, le petit ventre qui s'installe, qui veut pas partir, le souffle, la capacité respiratoire qui faiblit, le cœur qui bat plus vite. Alors, les gens qui font beaucoup d'endurance ont un cœur en général qui bat très lentement. Voilà, ça c'est cool. Et tout ça, je l'ai vu en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, ça fait 9 mois. Mais je l'ai vu au bout de 3-4 mois, ça a commencé. Incroyable. Incroyable. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. J'ai repris la course à pied. Voilà, je repars de tout en bas. Là, au parc où je cours, tout le monde me double. Tout le monde. Quel que soit l'âge, l'état physique. Voilà. Il y a des gens qui me doublent, il leur manque la moitié du corps. Voilà, ils ont 370 ans. Voilà, je pense que certains fument 10 paquets de cigarettes par jour. Tout le monde me double, tout le monde, sans exception. Je ne double personne. Dans les petits parcs parisiens, il y a des petits concours d'égo, là, ça me fait marrer d'ailleurs. T'en as, t'as l'impression que c'est les Jeux Olympiques, quoi. T'as des. Les hommes d'ailleurs, surtout, pas trop les femmes. T'as des mecs. Dans les petits parcs parisiens, là. Les mecs, ils courent une fois par semaine, ça se voit, ils ont des mollets, ça ressemble à rien, tu vois, c'est pas dessiné, tu vois bien que le gars. Alors, ça court comme des dératés, voilà, on est dans un parc, ça frôle les petites mamies, ça frôle les enfants qui jouent, voilà, ça frôle les autres coureurs, tu bouges d'un millimètre sur ta trajectoire, t'es au parc, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Boum ! Putain, mais il y en a, j'ai envie de les attraper, quoi. Moi, je déteste qu'on me frôle, c'est super dangereux. Moi, quand je... Pour le coup, je cours plus très longtemps. Moi, quand je double quelqu'un, je passe large, quoi. Parce que tu sais pas ce que la personne va faire. Tu sais pas. Elle a le droit de faire un pas de côté. Encore plus si c'est un enfant, par exemple. Et les enfants, ils font beaucoup de pas de côté au dernier moment. Et en fait, donc, je passe au large, quoi. Et souvent, je passe... Et puis, je me dis, ah, bah, j'ai bien fait. Parce qu'effectivement, je frôle quand même la personne, alors que... Parce qu'elle a bougé, quoi. Ça me rend fou. Parfois, je vois un mec qui me frôle comme ça. C'est toujours des mecs. Les meufs, c'est très rare, quoi, parce qu'ils ont les gars. Ils me frôlent, et puis après, je les vois frôler des mamies, frôler des gamins. Je vois les parents qui lèvent les yeux au ciel. Mais le parc t'appartient pas, putain! Et puis, c'est pas les Jeux Olympiques. Et puis, même si c'était les Jeux Olympiques, t'es vraiment qu'un gros connard, quoi. Putain, et dans ma tête, je me vois en train de courir après, et bam, grosse droite. Non, c'est pas vrai. Mais les engueuler, de leur dire, mais tu penses à ce que tu fais? C'est un espace public, baby. Ça me rend dingue. Ça me rend fou. Mais vraiment, hein, je suis vraiment en colère quand je fais ça. Oh, ça m'énerve. Et je me vois courir après et les engueuler, quoi. Et leur dire, mais tu réfléchis à ce que tu fais. Mais t'es un danger public, en fait. Et puis t'es même pas un sportif. Il y a 20 ans, je te prenais comme une merde toute n'importe quelle distance. Bon, maintenant, c'est une autre histoire. J'ai découvert Twitch, je te raconterai. Mais arrête. T'es nul. Tu vois rien. Je te prends quand tu veux, quoi. Arrête. Voilà, ça me rend dingue, quoi. Et donc, j'ai très envie de les rattraper comme ça pour leur dire le cas de vérité. Sauf qu'en fait, je ne peux pas les rattraper. Je ne peux plus les rattraper. Donc, je continue à courir à 2 km/h. Et faire, puis je râle tout seul. Je fais connard. Voilà, c'est ma vie actuellement, quoi. Oh, je supporte pas ça, les frôleurs. C'est quasiment que des hommes. Des jeunes cons. 20, 30 ans. Après, ça se calme. Ça se calme. La sagesse après. Oh les cons! Oh les cons! Oh les cons! Oh, je déteste ça. Vous connaissez ça ou pas? C'est pareil à la piscine. Oui, c'est pareil à la piscine. Ouais. Oh les cons. Oh non, c'est super dangereux. Voilà. Choupi dit, en tant que femme, quand on marche dans la rue, on est obligé de se décaler pour laisser passer certains mecs, ça doit être les mêmes qui font ça en courant, l'espace est à eux et eux seulement, ouais, c'est ça. Les mecs qui courent à 10 km/h, genre 12 km/h au maximum, ce qui est pas très rapide, ils ont l'impression d'être les rois de la piste, quoi. C'est Usain Bolt, toi. Ils te frôlent, genre... T'as vu ? Ouais. Ouais. C'est pas très impressionnant, hein. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est ta connerie, quoi. Oh, nom de Dieu ! Mon dingue, ça. Attends. Je m'achetais un taser, moi. Tiens, allez, cours maintenant. Pardon, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est que la course, elle a tout. Rosa. Jolie Rosa, elle est très bonne. Ce qui est bien, c'est que la course, elle a te détendre. Ah ouais. Ah non, ça m'énerve. Et puis, en moi, bon, le mec, il me frôle et limite, il me pousse un peu. Hein. Après tout, c'est ça, je suis grand, quoi. Mais parfois, t'as des gamins, dans ce parc, t'as des enfants qui sont en train, genre, j'apprends à marcher, tu vois. Alors, un enfant qui apprend à marcher, la trajectoire est un peu aléatoire, quoi. Et ben, ça frôle les gamins, quoi. Mais un jour, il y a des gamins qui vont se prendre des gros coups de genoux dans leur gueule. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou, ça. Discrètement, je mets un petit coup d'épaule quand on me frôle comme ça. Je fais hop, oh, excuse-moi, je n'ai pas vu, paf, voilà. Allons, il y a un autre truc aussi que je fais. Oh, je suis vraiment un enfoiré. Il y a un truc que je fais aussi, c'est que c'est les mêmes mecs. Donc le mec te frôle, voilà. Enfin, c'est une autre catégorie. Il y a ceux qui frôlent parce qu'ils vont un peu plus vite que toi, ils ont l'impression d'être des champions. Alors que non, en fait, je vois que tu n'es pas un champion de la course à pied. J'en ai connu, tu n'es pas un champion de la course à pied. Arrête de me frôler. Et arrête de frôler les petites vieilles et les enfants. Donc il y a les frôleurs, ceux qui vont un tout petit peu plus vite que toi, puis il y a ceux qui vont à 0,1 km/h plus vite que toi et qui sont un peu grisés par la vitesse, tu vois, ils sont comme moi, ils avancent à 2 à l'heure, mais ouf, Il te double, donc t'es la seule personne qui double parce que tout le monde me double. Donc à un moment, le mec le plus lent du parc, à un moment, il est plus rapide que moi. Donc à un moment, il me double, moi aussi. Et donc là, donc avec son 0,1 km/h plus vite que moi, après, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat. Cet enfoiré. C'est toujours un mec. Toujours un mec. Il se rabat. Donc il met à peu près une heure à me dépasser. Et à un moment, il se rabat. Mais il se rabat pas 5 mètres devant. Il se rabat pas 2 mètres devant. Il se rabat même pas 1 mètre devant. Il se rabat. Et en gros, si je ralentis pas, je lui marche dessus, quoi. Donc le mec, il me fait une queue de poisson, en fait. Foiré. Donc si je ne ralentis pas, je lui marche dessus. Qu'est-ce que je fais? Non, pas un appel de phare. Atléon, non. Je lui marche dessus. Le mec se rabat. Il faut que je ralentisse pour pas lui marcher dessus. Je lui marche dessus. Je vise l'arrière de la chaussure. je vise l'arrière de la chaussure. Voilà. La petite pointe délicatement posée sur l'arrière de sa chaussure. Voilà. Il perd sa godasse, il perd sa grolle. Et là, il fait genre tout surpris, genre oh, bah je dis bah ouais, tu te rabats comme un con. Voilà. Mais voilà, maintenant tu vas remettre ta chaussure. Ah, ça marche à tous les coups. Ça, c'est mon petit bonheur, ça. Parfois, j'allonge un tout petit peu la foulée. Un tout petit peu, juste. Voilà, j'allonge un tout petit peu la jambe pour que ça marche bien, là. Faut bien poser à l'arrière, quoi. Sérieux, sérieux. Ah. J'en peux plus, là, de la guerre du parc, moi. J'en peux plus. La guerre du parc. Ah. Mais sinon, ça m'apaise beaucoup, la course à pied, moi. Non, la course à pied, c'est un truc super apaisant, mais vraiment, des gens, ils devraient pas faire la course à pied, quoi. C'est vraiment un caractère de merde, en vrai. Bon, c'est pas tout ça, on va lire les journaux. Et où est la tablette? Ok, j'ai même pas... Allez, là. On passe au... Ouais, y a Idriss qu'on peut plus. Oh là là, arrête, Idriss. Ça va, l'actu. Ça va, on parle de choses importantes, hein. Idriss. Allez, on passe à l'actu. Eh ben, justement... Oui. Ah. On dit pas guerre, on dit opération spéciale. Alastair, j'ai la ref. Bien joué. Alors, pour lire les journaux, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut les lire. Bon, voilà, je me suis réveillé tôt ce matin pour vous. Ne me remerciez pas. Si, remerciez-moi. Yann J, merci pour le 19e mois d'abonnement. Sissim 4, merci pour le 4e mois d'abonnement. Franck S, merci pour le 12e mois d'abonnement. Eh, ça vous a fait marrer mes histoires débiles là. Pain au choco, merci pour le Prime. Ronan, non, merci pour le 22e mois. Tu dis non, je dis oui. Je suis tellement en forme. Merci, c'est super. Voilà. Donc, pour lire les articles les matins, eh ben, il faut les télécharger le matin, il faut les acheter, il faut les lire, il faut les résumer, il faut faire son petit choix. Voilà, donc ça c'est fait. Après, il faut brancher la tablette, je viens de le faire. Voilà, et après, il faut prier pour que ça marche. Je supprime les articles d'hier, sinon dans l'état de fatigue dans lequel je suis, je vais vous les lire. C'est bon. Voilà. Et maintenant, on prie pour que ça marche, parce que je n'ai pas vérifié la connectique. Et ça ne marche pas. Et ça marche, formidable. Et ben c'est go. Moi. Prêt ? Ping ! C'est parti pour le sommaire. Est-ce que j'ai un yes ? Est-ce que j'ai un go pour le sommaire ?
Yes.
C'est tout ? C'est un petit yes. Est-ce que j'ai un go ? Est-ce que j'ai un yes pour le sommaire ?
Yes.
Ok, ça c'est mieux que ça. Je vois des go. Je vois des go de Princesse Emma, de Francis. Je vois un monsieur Crespo. Je vois une Pépin Camille qui régale. Qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Voilà. On préfère franchement ça. Merci Camille. On préfère que les frôleurs et les mecs qui font des queues de poisson. Merci beaucoup. Je dis.
Yes.
Camille, merci beaucoup pour les 10 abonnements offerts à la commune. Yann J, je ne sais pas si je t'ai remercié, je le refais, j'ai un petit doute. Merci pour le 19e mois. Petit sommaire, pour ceux qui ont 10 minutes à nous consacrer, vous avez l'essentiel de l'actu et après on lit tout ça. J'ai envie de dire, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette gentillesse, cette bonté d'âme, cette générosité, ce soutien? Il y a Rhapsody in Blue qui à son tour vient d'offrir 11 abonnements à la communauté.
Yeah baby.
Carrément. Merci la persifleuse pour le 15e mois d'abonnement. Et merci pour le gentil message. Et Defecator, c'est une très bonne idée. Social Rude, merci pour le 21e mois d'abonnement. Vous me reprochez, vous avez raison de vous parler souvent de mauvaises nouvelles. L'actualité en est composée, effectivement. Et parfois, j'en ai des bonnes. C'est la une du Parisien ce matin. Il y a des progrès importants, des progrès fulgurants, dit le Parisien ce matin, dans la lutte contre le cancer. Je dis yes, baby. On lira ça, avec notamment un Français qui a atteint... qui était atteint d'un cancer de la langue, et pour éviter une récidive, eh bien, il teste actuellement un vaccin anti-cancer. Un vaccin anti-cancer. Donc, on lira ça. Merci, le Parisien. Hier, on a appris, grâce à vous, dans le stream hier matin, la disparition de l'humoriste Guillaume Batz, l'humoriste en situation de handicap qui avait la maladie des os de verre à l'âge de 36 ans. Voilà. Le hasard a voulu que quelques jours auparavant, on est allé ensemble regarder certains de ses sketchs. Voilà. On lui a rendu hommage hier matin. Et puis je vous dis hier matin, bon ben, ça vient de se passer. Et il n'y a pas encore d'article dans la presse écrite, print. Et je vous ai dit, j'espère qu'il y aura un beau papier demain. En forme d'hommage à Guillaume Batz. Et je l'ai trouvé dans Le Parisien. Je dis merci au Parisien. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs que dans la presse papier, print imprimé ce matin, il n'y ait pas d'autres papiers sur Guillaume Batz, parce que je pense que cette belle personne le méritait, quoi. Donc, il faisait valser les préjugés. Très beau papier signé Grégory Pouviès dans Le Parisien. On lira ça. Oh, il y a Idriss qui a écrit « Reste in rire », j'aime bien. J'ai vu le message que Jérémy Ferrari a laissé pour lui. Ouais, Libé, pas dessus, Sir Chorao, j'étais un peu surpris. Peut-être sur Internet, peut-être que sur Libération.fr, il y a un article, mais pas sur la version papier. J'étais un peu surpris. Bon, petit horoscope, petite météo, peut-être. Ah oui, tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À Roland-Garros, ce guide de l'hôtesse parfaite dérange. Embauchées pour la grande compétition de tennis, elles se soumettent, donc les hôtesses, essentiellement des femmes, des jeunes femmes, à une charte qui stipule notamment l'obligation de s'épiler jambes et aisselles. Élus et associatifs dénoncent du sexisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ira voir ce guide de l'hôtesse parfaite à Roland-Garros. Qui est derrière ça ? Qui l'a édicté ? Quelles sont les règles ? Est-ce que c'est pas un petit peu suranné, pour pas dire complètement dépassé, voire totalement sexiste ? On lira cet article. Alors, là, je suis content aussi. Merci Libération. Merci Libération pour ça. Moi, c'est quelqu'un dont je ne connais pas tellement le parcours. Marlène Schiappa, voilà, la secrétaire d'État. Eh bien, elle a un bon gros portrait dans Libération ce matin. Calamity, non pas Jane, mais Calamity Schiappa, c'est la une de Libération, qui a enquêté sur la personne, le personnage, sur l'affaire aussi... du scandale du fond Marianne, voilà, et puis aussi pour tous les éclats médiatiques de ces derniers temps, notamment le fait qu'elle était à la une de Playboy. Elle agace, elle intrigue, et pourtant l'Élysée la protège. Pourquoi et jusqu'à quand ? Eh bien, on va se pencher sur ce dossier de Libération. Il y a du jaune partout, ça veut dire que l'article est plutôt sympa. Voilà, on lira ça. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Marlène Schiappa sans jamais oser le demander, c'est dans Libération ce matin. La cape rouge lance le débat alors qu'on en parlait tout à l'heure. C'est normal de s'épiler quand on est hôtesse ? Non. Moi, je dirais non. Moi, je dirais l'hôtesse, elle fait ce qu'elle veut, si je puis me permettre. Voilà. Mais on aura ce débat tout à l'heure. Ça, c'est Libération. Le Figaro. Le Figaro, bah, justement, sur Roland Garros, mais pas sur... l'histoire des hôtesses, là, mais sur le fiasco du tennis français. Ouais. Chaque année, on a l'impression que les Français se font aligner de plus en plus vite. Après le fiasco, je crois qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Françaises à Roland-Garros, à moins qu'il y ait encore des Français, des Françaises en double, je ne sais pas. Après le fiasco, le tennis français peut-il rebondir ? Le Figaro s'inquiète s'inquiète et puis s'interroge pourquoi ? On a des bonnes individualités au niveau mondial, hein, en tennis, pourquoi Roland-Garros, ils se font sortir si vite, quoi ? 40 ans, la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, c'était il y a 40 ans. Il y a Ribos qui se demande si on leur a expliqué les règles du jeu. Oui, je pense, ouais. Oh là là, les bonnes séries. Il y a Gilous qui a écrit les tennisman français qui testent la semaine de 4 jours. Joli. Zéro mental, dit Caradoc. Et bien justement, c'est la piste explorée par le Figaro. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu fragiles dans leur tête, voilà. Les athlètes, les champions, les championnes français, françaises. Voilà. On lira ça. Il y en a qui débattent de l'épilation des hôtesses, là. C'est, le débat, il est parti. La zone aéro, salut. Je lirai ton DM avec, avec intérêt. Je ne suis pas très réactif sur les DM en ce moment parce que je suis un peu débordé, mais bien sûr. Alexandra, j'ai vu ton message, mais ce n'est pas un sujet que je vais évoquer ce matin. Ça par contre, oui. Waouh, merci Le Monde. Ce matin, je dis... Soit vous avez vu, j'ai dit merci aux Parisiens pour l'article... sur les progrès contre le cancer, j'ai dit merci à Libération pour le portrait de Marlène Chavard, j'ai dit merci au Figaro pour ce dossier, notamment sur Roland Garros, et là je dis merci la vie, hein. Je chante la vie, je danse la vie, et je dis merci Le Monde parce que c'est un dossier vachement intéressant sur la consommation de viande en France. Alors l'idée générale, c'est qu'on mange moins de viande en France, on est d'accord, hein. Il y a de plus en plus de gens autour de vous, de gens qui disent ah mais moi j'ai arrêté la viande ou j'en mange de moins en moins. Okay, hein. Non, c'est pas vrai. Les Français mangent de plus en plus de viande. What? Les Français mangent de plus en plus de viande. Ils mangent toujours plus de viande. Quoi? C'est totalement contre-intuitif. Eh ben c'est fou. Les chiffres sont nets. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi? Comment l'expliquer? D'où viennent les chiffres? Vous allez voir, c'est carré. Voilà. Et pourquoi on a l'impression de manger moins de viande? Alors qu'en fait, on mange plus de viande. Ah, incroyable, hein? Au total ou par personne? Les deux, la tornade fière, les deux, mon commandant, les deux, mon capitaine. Alors, on mange plus de viande au niveau général, déjà parce que la population française augmente, mais on mange plus de viande aussi au niveau individuel, par personne. Folie! Il y a Notokil qui essaie de foutre le chat en feu en disant « Le cheval, c'est de la viande, point d'interrogation, je te vois ». Je te vois. Gauvin qui dit c'est un truc de bourgeois de réduire volontairement sa consommation de viande. J'ai pas trop la rêve de ton analyse sociologique sur la consommation de viande. Je pense que surtout que c'est un truc assez évident pour réduire nos émissions de CO2. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. Voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Pas sûr qu'on puisse résumer ça à un truc de bourgeois. Ou à moins de considérer que l'écologie et l'environnement, c'est un truc de bourgeois. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Free Flight 30, merci pour le 3e mois d'abonnement. Merci la Tote pour le 10e mois. Hysteria Play, comment vas-tu? Merci pour le 19e mois d'abonnement. Bonjour à Batman Delta qui nous rejoint à l'instant. La Cour des comptes a dit que nous avons trop de vaches en France, car ad hoc, Le Monde en parle. Et c'est vachement intéressant. Il y a Colette Barre qui vient foutre le feu, qui dit « Ouais, moi j'adore la viande ». Mais t'as le droit, on va en parler tout à l'heure. Moi j'en mange quasiment plus. En tout cas, j'ai l'impression d'en manger de moins en moins. Intéressant, parce que Le Monde en parle. Voilà, pour le petit sommaire, vous avez l'essentiel. Et maintenant on va y avoir tout ça. Samuel Etienne a quand une rencontre Etienne avec Edouard Baird, mais si tu savais, je suis prêt à tout donner, je suis prêt à donner ma chemise pour une rencontre avec Edouard Baird. J'en rêve, j'ose même pas l'inviter. Tellement je pense qu'il est occupé. Et tellement je pense que j'aurais l'air tellement naze à côté de lui. Edouard Baird, là, à côté de moi, là, voilà, en train d'ouvrir des grands yeux devant la débilité de mes questions et de mes remarques et de mes blagues claquées au sol, quoi. Ah non, putain. En fait, je ne l'invite même pas tellement j'aurais peur d'être naze, en fait. J'adore Edouard Baird. Totalement fan. Brillance de l'esprit, de l'élégance de cet homme, voilà. Mais j'oserais pas. Je serais trop stressé, quoi. Voilà, je serais trop... Voilà. Mais j'adore. Il y a un Artra qui dit, c'est qui? Edouard Baird? Sérieusement? Bon, on y va? Est-ce qu'on se lit, ces journaux? Est-ce que j'ai un yes?
Well, yes.
Est-ce que j'ai un go?
Yes.
Est-ce que j'ai un go yes?
Give me a Y, give me an E, give me an F. Yeah.
C'est la fête, c'est un peu la fête de l'actualité, c'est tous les matins dans la matinée. Tiens, si vous êtes avec moi ce matin pour la première fois, sachez qu'on essaie d'être là tous les matins. Parfois, on est empêché par les autres boulots, mais qu'en juin, ça va streamer fort. Le café est prêt, let's go, me dit Maze. Eh ben, on y va. Le Parisien, donc, parfois de bonnes nouvelles dans l'actualité. C'est le cas ce matin avec les progrès fulgurants contre le cancer. Yes! J'ai déjà parlé de ce sujet qui est vachement important. Bien sûr, on a tous été touchés, on le sera un jour, par la maladie d'un proche ou soi-même dans son corps. Vaccin thérapeutique, épimédicament, anticorps nouvelle génération, les progrès continuent et offrent des perspectives à un nombre toujours plus grand de malades, nous dit le Parisien. Il y a Julien qui dit « Toujours pas mis de pantalon, mais prêt à écouter l'actu. » Subitement, j'ai des images dans la tête. Il faut arrêter Julien parce que je suis en train de me concentrer. Il teste un vaccin anti-cancer conçu par des Français. Une injection contre la récidive des cancers. Là, on parle des cancers ORL. Il figure parmi les innovations marquantes du congrès de cancérologie qui débute ce vendredi à Chicago, aux États-Unis. Hervé, 65 ans, c'est le monsieur que vous voyez ici, est l'un des premiers au monde à éprouver ce cancer. Exactement, Caradoc dit que c'est un vaccin adapté à une personne selon son ADN, c'est des vaccins individuels, tu as raison, ça doit coûter super cher, sans doute, mais bon, en même temps, si ça permet aux gens de ne pas mourir, je me dis que c'est cool, quoi. Bonjour, si besoin, la cancéro est ma spécialité de thèse, nous dit Poloche Sangène. La classe, la classe. Merci Clément Polito pour le gentil message. Lisons, donc le monsieur qu'on voit ici, il a eu un cancer de la langue, putain la vache, hérité de ses années fumeur. Le Parisien de 65 ans, donc a subi une opération, hein, on lui a retiré une tumeur, on lui a reconstruit la bouche. Et aujourd'hui, le Parisien de 65 ans est un des premiers malades au monde à tester un vaccin thérapeutique pour éviter la récidive de sa maladie. Ce n'est pas un vaccin préventif pour empêcher, c'est un vaccin thérapeutique. Le traitement est 100% individualisé, donc c'est un vaccin pour une personne. Voilà. Le produit est unique pour chaque patient, il sera utile pour la personne pour laquelle il est conçu et ne servira à rien pour une autre, explique le directeur de Transgène, son concepteur, il s'appelle Eddie Ben Brahim. Présenté ce lundi au congrès de cancérologie de Chicago aux États-Unis, les résultats dits de phase 1, encore précoces, sont très prometteurs. Parmi les 31 participants à l'étude, 15 ont reçu le sérum, aucun n'a rechuté, plus de 10 mois après l'injection, et surtout tous ont développé une réponse immunitaire, ce qui montre que le vaccin fonctionne. Il y a Ifatou qui vient de nous rejoindre. Je viens de me taper 15 pubs pour rejoindre le stream, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que je vais me gaver de thunes et je vais pouvoir m'acheter enfin cette Bentley dorée à l'or fin dont je rêve tout le temps, dans laquelle je vais parader dans tout Paris, imminemment sous peu. Si tu viens de te prendre 15 pubs, je pense que c'est pas longtemps. Minos, merci beaucoup pour le 22e mois d'abonnement. Tiens, grâce à toi, je me mettrai une deuxième couche d'or fin sur la bagnole. Comment ça marche? Lors de son opération, un bout de tumeur du patient est prélevé. C'est incroyable. Il est séquencé génétiquement. Ouf. Et parmi les 3000 mutations possibles, eh bien, une intelligence artificielle, quelle époque de fou quoi, artificielle japonaise, va sélectionner les 30 mutations les plus à risque pour chaque malade. C'est pour ça que le truc est individuel. Une fois la prédiction faite par la machine, place au laboratoire, et c'est à Strasbourg que le vaccin qui contient les mutations donc tumorales propres à chaque patient est fabriqué. Il va éduquer leur système immunitaire pour qu'ils développent des anticorps capables de détruire les cellules cancéreuses, explique un professeur. Merci beaucoup Yann pour l'abonnement offert à justement Ifatou qui vient de se prendre 10 pubs là. C'est incroyable, hein, c'est génial. Donc je répète, ce vaccin va éduquer le système immunitaire des patients pour qu'ils développent des anticorps capables de détruire les cellules cancéreuses. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui naissent des IA, intelligence artificielle. Bon, bah là, l'IA en question, elle permet de faire ça, quoi. La folie, quoi. C'est dingue, hein. Je trouve ça assez fascinant. Comme le résume la zone aéro, pas con. C'est pas con. C'est très intelligent comme méthode. Ouais. Moi, j'en avais eu l'idée il y a longtemps, mais personne ne voulait m'écouter. Alors Clément Polito dit qui est passé un peu en mode comptabilité actif passif tout ça, compte de résultats, bénéfices de l'entreprise, dit un vaccin par personne, ils disent combien ça coûte aux patients? Non, ils disent pas, je suppose que ça coûte cher, mais bon, c'est la vie quoi, ils disent pas, c'est vrai que l'info manque. En même temps, on est sur un sur les tests là. C'est un. Le Maghreb IPED nous dit, je travaille en recherche en cancérologie. On a entendu parler de ça et c'est vraiment élégant comme système. Waouh. Une vie n'a pas de prix, dit Malteser 300. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est fou, hein? Voilà. Je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous si vous voulez en savoir plus. Il y a un point sur les progrès dans la recherche contre le cancer qui ne se résume pas à ce projecteur-là. C'est sur deux pages, deux ou trois pages dans Parisien de ce matin. N'hésitez pas à le télécharger. Le Parisien, si vous l'achetez en kiosque, ça coûte 1,90€ et en téléchargement en général, ça coûte même un peu moins cher. Voilà. Y a Rizem qui dit ça coûte probablement rien, comme presque toutes les thérapeutiques anticancéreuses en France, étant donné que les cancers sont pris en charge à 100%. Je pense que les gens qui parlaient du coût parlaient. Dans le cadre de la France, heureusement, on a un système de santé qui est assez protecteur. Pareil, du coup, pour la société, pour la collectivité, du coup. Puisque quand tu dis ça ne coûte rien aux malades, mais ça a un coût pour la collectivité. Je pense que la question des gens était en ce sens. Et c'est une vraie question, il ne faut pas l'ignorer. Hein. Bien sûr. Voilà, ça c'est dans le Parisien, ça vous intéresse. Et puis merci le Parisien. Merci pour ce très beau portrait, cet hommage à Guillaume Batz, l'humoriste en situation de handicap qui était... Pardon. ne faites pas attention à cette toux qui me suit depuis 6 mois. Je suis en pleine forme. Et donc Guillaume Batz était atteint de la maladie des os de verre. Le hasard avait voulu que quelques jours auparavant, 3-4 jours auparavant, on avait regardé ensemble... un sketch de Guillaume Batz, puisqu'il était mis à l'honneur dans un grand papier sur les humoristes en situation de handicap en France, qui était vraiment super bien fait. Donc on était allé rire avec lui, et c'est vrai qu'il était génial. Et puis on a appris hier son décès qui remonte à la journée de jeudi. A priori, c'est son ami et producteur Jérémy Ferrari qui l'a découvert dans son lit, s'inquiétant de ne pas le voir venir à une conférence. A priori, mort pendant son sommeil, dit Jérémy Ferrari, mais il dit qu'il n'en sait pas beaucoup plus. Il y a un très beau portrait qui lui est consacré à Guillaume Batz par le Parisien ce matin. Je remercie Grégory Pleuviez pour ce très très beau papier qu'on va lire ensemble. Il y a la maladie des os de verre. Il y a un éclairage là à droite. Quelqu'un en est atteint dans le chat. C'est Veridis Quo Live qui écrit « C'est ma maladie, mais j'ai la chance de ne l'avoir qu'à un degré ». Pas trop élevé, j'en ai que 8 fractures à mon actif. Voilà. Est-ce qu'on sait si son décès est dû à sa maladie, demande Mlle Bébé, on ne sait pas, comme je viens de le dire à l'instant, pour l'instant on ne sait pas. Il faisait valser les préjugés. L'humoriste Guillaume Batz, atteint d'ostéogénèse imparfaite, grave fragilité osseuse, est décédé à 36 ans, retour sur une trajectoire hors du commun. Il aurait sûrement aimé qu'on commence cet article par une blague, écrit Grégory Pleuviez. Lui, l'autoproclamé gargouille la plus drôle de Paris, qui promenait sa mini-silhouette et sa maxi-autodérision sur les plateaux télé et scènes depuis plus de 10 ans. Mais on n'en a ni la force ni le talent. Et de la force et du talent, il en faut une sacrée dose pour transformer en rire les pires épreuves de la vie. En la matière, Guillaume Batz, disparu jeudi 1er juin, à l'âge de 36 ans, était un expert, atteint depuis la naissance d'ostéogénèse imparfaite, appelée aussi maladie des os de verre. L'humoriste avait fait de son handicap, vous le savez, une force. De ses multiples galères, hier on s'est penché sur sa vie, sa maladie n'a été qu'un de ses soucis, il en a eu d'autres. De ses multiples galères, une matière première comique, de l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis sa naissance, un moteur d'une puissance rare qui lui avait permis de faire sa place dans le paysage humoristique français, aux côtés de son frère de scène, Jérémy Ferrari, comme il l'appelait, qui était aussi son producteur avec Éric Antoine. Son aspect physique, son état de santé ne tournait pas autour du pot pour les aborder. La première tirade de son premier spectacle, quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui ne vont jamais les voir, alors payer pour en voir un qu'on ne connaît pas, s'amusait Guillaume Batz. Le décor était planté, les préjugés étaient prêts à valser. Merci Screeny pour ce soutien et ce deuxième mois d'abonnement. Alors il y a la maladie, mais ça n'est pas tout. Né Guillaume Battreau, le petit garçon aux bras trop longs, il disait à ce propos à quoi ça sert de pouvoir se gratter les genoux sans se baisser, avait pris un départ compliqué dans la vie. En plus de cette extrême fragilité osseuse, le petit Rémois, Rémois c'est Reims hein, je crois, a été abandonné par sa mère à 1 an, placé dans une pouponnière jusqu'à 4 ans, ballotté dans des familles qui n'ont d'accueil que le nom, il en avait de très mauvais souvenirs, jusqu'à 11 ans, harcelé dans les cours de récréation à cause de sa différence. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, il a eu tout le package, quoi, mon pauvre. Son histoire personnelle aurait pu le clouer au sol. Elle lui a permis au contraire de prendre son envol quand, merci et bravo à cette dame, à 12 ans, enfin placé dans le giron aimant et bienveillant d'une dame âgée, il découvre la scène comme on découvre un pouvoir magique. Un jour, il se trouve enfin une famille, cette dame âgée qui devient comme une seconde mère pour lui, et manifestement qui lui donne beaucoup d'amour. Et puis là, il découvre quasiment au même moment la scène, comme on découvre un pouvoir magique. Le théâtre est venu naturellement à moi, car je n'étais pas timide, se confiait-il en mars dernier. De là, j'ai commencé à m'assumer, à aller vers les autres, à les faire rire, au départ en petit comité, et puis dans des salles de plus en plus grandes. Décédé en 2010, sa maman de cœur, comme il le disait, ne le verra jamais crever l'écran ni brûler les planches à Paris. La grande tristesse de ma vie, avait-il dit, à propos de cette femme qui l'avait... Qui l'a aimé, qui l'a accompagné et qui n'a pas assisté en fait à ses succès. L'année suivante, fin 2011, le grand public découvre son profil atypique, son humour cache dans l'émission On ne demande qu'à en rire. La suite, c'est notamment avec Jérémy Ferrari qu'elle s'écrit, notamment dans les Duos Impossibles, émission dans lesquelles Ferrari place avec lui le curseur de l'autodérision à des niveaux himalayesques quand il joue aux côtés de stars de l'humour comme Baptiste Le Caplain, Arnaud de sa mère et même Florence Foresti. Sur scène, après son premier one-man show, son seul en scène hors cadre, Guillaume Batz s'apprêtait à doubler la mise avec un nouveau spectacle coécrit avec, devinez qui, Jérémy Ferrari, son nom Inch'Allah. Une façon de dire je suis encore là, Inch'Allah, contre toute attente, pour un deuxième spectacle et Inch'Allah, ça va bien se passer, disait-il à ce propos. L'annonce de son décès a provoqué une vague d'émotion XXL sur les réseaux, effectivement. Pour poursuivre cet hommage, je vous propose d'aller voir un sketch de Guillaume Batz. Je vous demande de m'en proposer un. On en a déjà vu deux. Un il y a quelques jours, qui était un duo avec Ferrari, justement. Un hier, avec une humoriste qui était assez sympa aussi. Est-ce que vous pourriez m'en conseiller un autre, vous qui aimiez Guillaume Batz? Et on va essayer de le chercher. Laura Lone, on l'a vu hier. Le sketch avec Laura Lone, on l'a vu hier. Ouais. Avec Arnaud de sa... On me dit qu'avec Arnaud de sa mère, il y en avait un très bien. Je le cherche. Magie d'Internet. Il y a Notre-Dame. Oh là là. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Je vois Jérémy Ferrari et Guillaume Batz, leçon de séduction, ça a l'air pas mal ça. L'adoption pour les nuls, me dit-on aussi. Ah, je le vois là. L'adoption pour les nuls. Ah, vous êtes plusieurs à me proposer. MT Maker. Mr. Svenja. Ok, bah je l'ai là. Après, les jeunes, c'est Jérémy Ferrari, je ne l'avais pas reconnu. Super jeune, ok, let's go.
Bien, les enfants, bonjour. Alors, nous vous avons réunis aujourd'hui parce que vous êtes les plus anciens de l'orphelinat. Et nous en sommes arrivés à une conclusion, c'est que si vous n'êtes toujours pas adopté à l'heure actuelle, c'est parce que vous êtes nuls. Nous allons donc tout de suite vous distribuer l'ouvrage « L'adoption pour les nuls » pour vous aider à vous rendre plus adoptable. Alors, vous remarquerez quand même les enfants que dans ce groupe, il y a des petits points communs. C'est que vous avez tous un petit peu des petits problèmes physiques, des petits problèmes de langue, Bon. Une adoption coûte quand même près de 5000 euros, les enfants. Ce qui fait de vous un mauvais rapport qualité-prix.
Quelle horreur!
Parce que c'est énorme, 5000 euros, hein? Songez qu'avec 5000 euros, on peut s'offrir une semaine de vacances dans un très joli pays. Alors c'est très compliqué pour nous de convaincre un père de famille de sacrifier une semaine aux Baléares pour élever un petit bègue, hein? Pardon, Benjamin? Oui, exactement, c'est con compliqué. Pardon, Grégory? Oh, mais nous, c'est différent, Grégory. Ah, mais nous, on vous accepte, mais parce que nous, on vous aime, Grégory. Eh bien, on vous aime et parce qu'on est payé, hein, pour vous aimer. Bien. Alors, dans ce livre, je me suis permis de relever quelques chapitres qui sont pour moi primordiaux, hein, surtout vu vos passifs. Ça peut vous aider à répondre à certaines de vos questions. Alors, prenez du papier et un stylo, je vous dicte les chapitres. Premier chapitre. Ai-je moins de chances d'être adopté si je n'ai pas de bras? Deuxième chapitre. Ma mère m'aurait-elle abandonné si mon père n'était pas également mon frère?
Quelle horreur!
Troisième chapitre. Pourquoi ma mère est-elle contre l'avortement mais pour l'abandon? Et quatrième chapitre. Est-ce que le monsieur que ma maman appelle violeur, je peux quand même l'appeler papa?
Celle-là, elle est faite.
Bien, maintenant, les enfants, pour vous aider à vous remotiver, j'ai invité un ancien du pensionnat qui lui est parvenu, malgré ses problèmes physiques, à se faire adopter extrêmement rapidement.
Hommage à Guillaume Batz.
Je vous demande d'accueillir Thierry, s'il vous plaît. Bonjour Thierry. Merci. Merci Thierry.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Merci d'avoir eu la force de venir.
Merci. Que j'ai venu en métro, donc bon, ça m'a pas.
Ah ben, oui, puis vous avez la petite carte pour les.
Voilà, c'est ça, on a la carte.
Ouais. Eh oui.
Donc voilà, donc les enfants.
Alors soyez bien attentifs à ce que va dire Thierry, hein.
Les enfants.
On peut remercier Thierry d'ailleurs également, hein.
Je peux y aller?
Bien sûr.
Ok.
Parce que Thierry vit en plus le même handicap que vous, hein. Et c'est terrible, hein.
Ça va, c'est bon.
Bien sûr.
Ok. Donc les enfants, avec nos petits défauts, ce qui est important d'avoir, c'est des qualités. La force, le courage et l'envie de s'en sortir.
Ah, il faut au moins tout ça, oui.
Oh, c'est bon. C'est bon, merde.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'au départ, hein, quand on voit Thierry, c'est sûr qu'on se dit pas tout de suite « Oh là là, c'est celui qu'il nous faut hein !»
Non, c'est vrai qu'on se dit plus, celui, il va ne plus nous coûter en frais médicaux qu'en livre scolaire, c'est sûr. Hein,
Exactement. Puis on se dit même parfois « Oh ben si c'est pour en racheter un dans 3 mois, ça vaut pas le coup.
» Ouais, en même temps, je suis pas mourant non plus. Hein,
non, enfin, tu admettras quand même, Thierry, qu'on parierait quand même plus sur un viager que sur un prêt sur 30 ans. Hein.
Ouais, alors les enfants, hein, si vous voulez être adoptés, faut prendre la pitié pour ces connards, hein, ok? Alors de toute façon, dites-vous bien que s'ils adoptent, c'est que c'est des impuissants, des bandes mous, des petites bites.
Voilà, doucement, okay
doucement. D'ailleurs, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment attrister votre futur parent.
Exactement. Hein.
Voilà.
Alors là, vous allez voir, c'est une démonstration remarquable que va nous faire Thierry. Prenez exemple, ça marche à tous les coups. Vas-y, Thierry.
S'il vous plaît. Monsieur, est-ce que je peux vous appeler papa?
Qui d'entre vous, bande de sans-cœurs, laissera cet enfant entre les murs froids et vides de cet orphelinat?
S'il vous plaît, donnez-moi l'amour que la vie ne m'a pas donné.
Ah.
que c'est poétique. C'est magnifiquement poétique.
C'est comme ça qu'il faut s'y prendre avec ces blaireaux. On est d'accord? Je compte sur vous.
Donc là, le sketch est terminé. Ouais. On va passer, tu sais, il y a les notes.
Ah oui, c'est vrai, vous avez noté. Ouais, c'est vrai.
Et j'aurais savoir si tu pouvais me filer un petit coup de main.
Tu veux que je remette un coup de violon?
Bah, ça serait vachement sympa.
Pas de problème.
C'est gentil.
C'est bon, ça c'est fait.
S'il vous plaît. Donnez-nous un rein.
Un vin? Non, non. Pas un rein, un vin. Hein. Un vin.
Non, parce qu'en fait, je suis allé voir chercher un rein pour un pote hier.
Ouais, mais non.
Ok.
Parce que moi, j'en ferai rien du rein.
Ok, d'accord.
Un vin.
Ok. Donnez-nous un vin, s'il vous plaît. Donnez-nous un vin.
Qui osera ne pas donner la note maximum à cet être?
Jérémy.
Oui, Guillaume, oui. Je t'écoute.
Je pars, Jérémy.
Oh non!
Je pars.
Non, Guillaume, ils vont te donner un vin. Ils vont te donner un vin.
Je crois que c'est mon dernier sketch à la télé.
Vous entendez? Alors, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour lui. Et un petit peu pour emmerder Arnaud de sa mère.
Du coup, c'est drôle, mais c'est un peu triste aussi. Quand même. Bon, je pense que c'était la meilleure façon de rendre hommage à ce monsieur, voilà, qui avait fait le, qui avait pris une forme de revanche sur la vie, grâce à l'humour et à l'autodérision. Je ne connaissais pas ce sketch qui est fou, mais alors, du coup, la chute, elle est dure, elle est un petit peu dure, quoi. Guillaume Batz, 36 ans. Sacré bonhomme quand même. Hein. Bon, je vais me faire un petit café moi. Hein? Excusez-moi, on se retrouve dans un instant pour un gros sourire. On va se faire l'horoscope et on va dire plein de conneries. Voilà. Mais je pense qu'entre cet hommage à cette belle personne et l'horoscope et la météo, je pense qu'on va faire une mini pause. Ok, merci aux personnes qui m'ont conseillé ce sketch. Je pense que c'était un très bon choix. Je vous mets une mini pause de 2 minutes de musique ou de pub et on se retrouve juste après pour le café. Voilà, mais c'est bien. On va aussi consacrer cette pause à la mémoire de Guillaume Batz. Je vous dis à tout de suite. Dans 2 minutes et on continue, j'ai plein de beaux articles pour vous. À tout de suite les amis. Cool, ça va vous? On a refait plein. Est-ce qu'on s'est réhydraté à la maison? Est-ce que vous êtes réhydraté? Et vous n'avez pas vu venir, c'est parti pour l'horoscope. Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, c'est le grand gagnant. Je lui lis son signe, on rigole, on dit n'importe quoi, ça n'est pas scientifique, ça nous amuse. C'est Sagittaire. Et je voudrais féliciter le Magret bipède pour sa rapidité, parce que Lyon, hein, ça se tape vite. Hein. Qu'est-ce qui se tape vite aussi? Bélier, ça se tape vite. Ouais. Cancer, ça se tape vite. Hein. Mais Sagittaire, correctement orthographié, sans oublier les deux T, ça claque. Donc, Sagittaire, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont jamais été là, c'est l'horoscope du Parisien. On n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, mais ça nous fait... Marais, Captain, oui, oui, merci beaucoup pour le 22e mois d'abonnement. You rock you, merci pour les bits, c'est Gatspire, merci beaucoup. Le 9e mois d'abonnement, c'est grâce à vous qu'on peut passer du temps un petit peu. Sagittaire, donc, cœur, oh merde, désolé, c'est nul. Sagittaire, c'est une journée de merde au niveau de l'amour. Vous allez peut-être vous rattraper sur la santé et sur le boulot. Le cœur, ça dit, n'attendez rien de cette journée. Voy, 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 voy. Oh là là, c'est genre, tu n'as pas trouvé l'amour, tu ne vas pas le trouver, hein. Rien, nada, pas ça, que dalle. Tu l'as déjà, ça va pas être terrible, quoi. Yes. Alors, est-ce que ça va être rattrapé par le travail, la réussite, la santé? Réussite, tout ne sera pas rose sur le plan financier, ok, c'est une journée de merde. Surtout si dernièrement, vous avez manqué de rigueur dans la gestion de votre budget. Ah, malin! Malin, l'horoscope du Parisien, qui dit que si récemment, tu n'as pas bien géré ton budget, il y a de fortes chances que tu aies des problèmes financiers. Joli! 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 Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est une journée de merde. Il faut dire les termes. Pour les Sagittaires. Forme, faites du sport. Non, ça va. Ça, on est sur le conseil santé, tout va bien, quoi. Et vous savez, et vous voyez que maintenant on peut zoomer. Je sais pas si l'appli a été revue, mais avant on pouvait pas zoomer bien comme ça. Du coup, les Scorpions, vous avez pu lire votre signe, les Capricornes aussi, et les Verseaux, le début quoi. Alors, Verseau, cœur, vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Pomme de coquinou. Capricorne, tout ira pour le mieux avec la personne qui partage votre vie. Profitez-en. Voy. Scorpion, cœur, il ne tient qu'à vous d'enterrer la hache de guerre. En fait, tout le monde va bien sauf les Sagittaires, quoi. Ouais. Je vais dire ça, ma copine me dit Yanji. Ok. C'est toi qui es Scorpion en mode l'amour, là? Non. Si, c'est ça. Ah oui, non, la hache de guerre. Ouais, les Sagittaires, désolé. C'est une journée de caca. Voilà, c'est comme ça. Pives, EDM, merci pour le deuxième mois d'abonnement, vous êtes formidable. Et maintenant, on est toujours dans le Parisien. Voilà, il nous reste encore le Figaro, il nous reste Libération, il nous reste le Monde. Samuel, tu vas passer la seconde, tu vas accélérer un petit peu, sinon tu ne vas jamais réussir à lire tous tes journaux avant de rejoindre tout à l'heure ce forum sur les rapports entre le jeu et les sciences cognitives à la Sorbonne. Voilà, et on va se pencher maintenant sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de guide de l'hôtesse parfaite à Roland-Garros. Pleine page dans le Parisien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Première fois que j'entends parler de ce truc. Embauchée pour la grande compétition de tennis, elle se soumet à une charte qui stipule notamment l'obligation de s'épiler. L'obligation dans une charte, un truc écrit, un truc qu'on doit signer, je pense. L'obligation de s'épiler jambes et aisselles. Élu associatif dénonce du sexisme. Quand même. Et comme le dit Tifty dans le chat, laissez nos poils tranquilles, quoi. Voilà. Lisons. Tous les ans, Roland-Garros embauche via des agences, hein, c'est pas en direct, plusieurs centaines d'hôtes et principalement d'hôtesses, hein, même s'il y a un peu de garçons, pour assurer l'accueil du public qui vient assister aux internationaux de tennis qui se tiennent pour cette 122e édition jusqu'au 11 juin. 70% des personnes embauchées sont des femmes. Elles ont à charge le contrôle des billets, l'accueil et le flux des spectateurs dans et hors les cours. Je vais lundi midi à Roland-Garros, pas pour voir les matchs, mais pour le travail, puisque France Télévisions est partenaire et que du coup j'ai un déjeuner de travail à Roland-Garros lundi. C'est vrai que j'ai une vie qui est vraiment très compliquée, qui est très difficile, qui n'est pas facile tous les jours. Lors des sessions de recrutement pour ces femmes essentiellement, tenue correcte exigée, donc là on parle des sessions de recrutement, tailleur, jupe, escarpin noir, classique, coiffé, maquillé, demande le recruteur. Donc ça, c'est pour le recrutement. On nous a demandé si on portait des piercings, si on était tatoué, se rappelle Chloé. Donc on sent que les piercings, les tatouages ne sont pas super bienvenus. À l'obtention du contrat, la jeune hôtesse qui témoigne s'est vue remettre donc un guide de l'hôte, hôtesse parfaite, qui exige, je cite, un maquillage léger, mais toujours présent. Donc il faut du maquillage. Résistant aux intempéries. Une bombe de lac pour les mèches rebelles. Voilà. Ici, on a fait attention le matin aux mèches rebelles. Et, last but not least, les jambes et les aisselles doivent être épilées. C'est une obligation, c'est dans la charte. Voilà. Porte d'Auteuil. Les hôtesses sont habillées par Lacoste, chic à la française, dit Linda. Vous avez deux tenues, une jolie petite robe polo marine et blanc avec casquette et tennis blanc, et puis un pantalon fuseau moulant avec un polo si la température descend. Les garçons, eux, à qui il est principalement demandé, eux aussi, ils ont une charte, de tailler correctement la barbe ou alors d'être rasés, voilà, c'est tout ce qu'on leur demande a priori, ont un pantalon large et le même polo. Un détail près sur le polo, explique Linda. Aux garçons, on demande de fermer le polo, les boutons jusqu'en haut, d'accord ? Et aux filles, on leur demande d'ouvrir le premier bouton. C'est écrit dans la charte. C'est super précis. Les garçons, c'est boutonné jusqu'en haut. Et les filles, vous allez me déboutonner le premier bouton. Non, tu ne fermes pas ton premier bouton. Non, c'est dans la charte. Tu ouvres ton premier bouton. Dans les faits, insiste Elisabeth, qui adore Roland-Garros, son ambiance sympa et tout. En fait, ça se passe bien. C'est formidable d'assister à certains matchs. On ne nous met pas tant la pression que ça. Ni la hiérarchie ni les spectateurs ne font de commentaires. J'ai croisé des hôtesses avec tatouage. Ces injonctions, ces demandes dans la charte sont plus un principe et manifestement l'application est un peu souple. Donc il y a ce document qui est un peu hallucinant quand même. et la façon dont c'est appliqué. Et manifestement, c'est plus souple que ça. Tchernozorus dit c'est une charte assez classique. Tous ceux qui ont déjà fait des salons pro ou ce genre d'événements savent que les hôtesses ont ce même genre de critères de recrutement. C'est arriéré, mais c'est ce que veulent voir les gens, nous dit Tchernozorus. En tant que femme, dit Fafa, je trouve pas ça si choquant que ça, dans le sens où c'est une tenue de travail, il y a des standards à respecter de partout dans quasiment chaque métier, donc pourquoi ce serait plus choquant qu'autre chose? En fait, parce que c'est illégal. Certaines demandes de cette charte sont illégales, c'est ce que vont dire à la fin de l'article des spécialistes du droit, vous allez voir. Je lis. Alors, qui a fixé ces règles? Contactez la Fédération française de tennis qui gère Roland Garros, bien sûr, botte en touche. On ne communique pas sur le sujet. Voyez avec l'agence qui a recruté, laquelle justifie un métier d'image qui implique un savoir-paraître et dans lequel l'épilation fait partie d'un code d'apparence, donc c'est assumé par l'agence. Alors, du côté des spécialistes du droit, eh bien, c'est, la réponse elle est assez claire. C'est illégal. C'est concernant et illégal, dit Fyodor Orilov, qui est un avocat spécialiste du droit du travail. Je n'ai jamais vu cette injonction à l'épilation, y compris dans les contrats de travail de top modèle. Si une hôtesse allait devant les prud'hommes et le tribunal judiciaire, elle obtiendrait gain de cause. Ces contraintes portent atteinte au corps humain. Le maire du 16e arrondissement, Francis Spinner, que je connais un peu, que j'ai beaucoup connu dans une autre vie quand je travaillais à ITD Canal+, qui est avocat aussi, qui est avocat pénaliste d'ailleurs, dit « Le sujet de l'épilation est certes passionnant, moi il rigole un petit peu, Francis Spinner, qui est le maire donc LR du 16e à Paris. Donc Laurent Garros, c'est sur le territoire du 16e arrondissement pour partie, donc c'est pour ça qu'on l'interroge. Il dit c'est vraiment passionnant, mais ce n'est pas du ressort du maire de s'exprimer là-dessus. En revanche, dit-il, obliger les hôtesses à s'épiler est une atteinte à la dignité. Donc là, on parle du maire LR du 16e, hein, qui est aussi avocat. Roland Garros n'est pas délicat. Voilà. Donc certains avaient l'air de dire que c'est assez normal. Si on pose la question des avocats, ils disent que cette injonction à l'épilation, le fait que ce soit obligatoire et que ce soit dans le contrat, dans la charte, en fait, ça c'est illégal. C'est malheureusement le document qu'on reçoit pour tous les boulots d'hôtesse, dit Périnette. J'ai eu la même chose juste pour tenir un karaoké aux Galeries Lafayette. L'agence demande aussi de leur envoyer un SMS avec une photo de nous à l'entrée sur le poste le matin. Tu prends ton poste, t'envoies une photo de toi à ton embauche quoi, le matin, t'envoies ça à l'agence. Ouais. D'accord. Noé Flantier a entendu les arguments de certains en disant « Bah oui, mais c'est comme ça, on voit ça partout. » Et tu dis « Ce n'est pas parce que c'est commun que ce n'est pas choquant. » Pivet EDM, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Joli, hein, joli, 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 joli. Tchernini, c'est dingue de penser que les poils c'est sale, c'est naturel, il faudrait que certains le comprennent une bonne fois pour toutes. Je trouve ça dégueulasse, dit Babaz, mais en même temps c'est un métier d'image. Alors, Til Paris, et le guide du streamer parfait, est-ce que tu es épilé Samuel? Oui, je suis épilé. Quand je faisais du triathlon et beaucoup de cyclisme, je me rasais les jambes, mais c'était... En cyclisme, c'est un peu obligatoire, notamment en cas de chute, pour bien nettoyer les bobos. Tinkou nous dit, c'est intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir depuis quand le doc n'a pas été mis à jour, et surtout s'il va y avoir modification. Ouais, au niveau des bras, c'est vrai que l'épilation, c'est pas ça, quoi. Hello l'équipe, on s'en fout que les gens aient des poils, on peut laisser les gens vivre avec, enfin. Écrit Boldum. pour avoir été hôtesse, je devais m'épiler les bras, dit, nous explique Marion. Pour le cyclisme, c'est à la cire ou au rasoir? Ouais, je m'accoute tondeuse, moi. C'est à l'arrache. Hein. C'est juste pour enlever les 4-5 kilos de poils que j'ai sur les jambes, quoi. Ouais. Donc, c'est. J'ai fait une fois la cire dans ma vie. Une fois, hein. Pas déconner, hein. Une fois. Hein. Non, non, ça fait pas mal, tu verras. C'est. Nous, les femmes, on le fait souvent. Vous êtes vraiment des chochoches. Vas-y, balance. Vas-y. Ok. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Oui, mais j'ai fait juste une bande, monsieur. C'est pas joli, là, par rapport. Non, on va s'arrêter là quand même. Hein. Je vais finir au couteau ou je vais m'arranger. Mais on va arrêter la cire. Hein.
Sérieux, quoi.
Le mec qui a inventé ça, c'est. Des dingues. Des dingues. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça, hein, les garçons. La cire. C'est ta femme qui te l'a fait? Non, je pense que j'étais allé dans un institut. Voilà. Et la jeune femme qui m'avait fait la jambe, donc je pense que c'était à l'époque que je faisais beaucoup de vélo, là, c'était bien foutu de ma gueule. Et elle avait bien raison. La cire, ça fait des plaques rouges, dit Ronan. Ouais, ça fait mal surtout. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Ah, on passe à autre chose. On passe à Marlène Schiappa. Enquête. Calamity, non pas Calamity Jane, mais Calamity Schiappa. Flingueuse, waouh, gaffeuse, ambitieuse. Libération nous a fait un petit poème. La secrétaire d'État mise en cause de le scandale du fonds Marianne. Tiens, ça va nous donner l'occasion de nous pencher sur l'affaire du fonds Marianne. Critiquée pour sa une de Playboy, agace et intrigue, l'Elysée pourtant la protège, mais jusqu'à quand? Il y a Smob93 qui écrit dans le chat cette analyse assez poussée du phénomène Schiappa qui nous permet de nous interroger, réfléchir assez loin par rapport au personnage. Donc tu écris Bouh Schiappa, donc c'est assez intéressant comme analyse. Je pense qu'on va pouvoir faire mieux que Bouh Schiappa. Gros dossier dans Libération. Moi, c'est la première fois que je vois un gros dossier, article de fond comme ça sur Marlène Schiappa. On va pouvoir se pencher là-dessus. Gros dossier, hein. J'ai mis du jaune partout. C'est vrai que c'est relativement bien écrit, c'est très bien écrit. C'est un article qui est signé Sophie des Déserts. Mise en cause dans l'affaire du fonds Marianne, on va en parler. La secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire s'est imposée comme une figure du gouvernement, à la fois critiquée pour son amour du buzz et respectée pour sa combativité. Marlène Schiappa, l'incontrônable ovni de la Macronie, titre Libération ce matin. Et zoomons. Vous êtes prêts? C'est un long article, mais il est vraiment intéressant. Moi, je me posais beaucoup de questions sur cette personnalité politique dont je ne connaissais pas tellement le parcours. Et bien là, maintenant, le logiciel est à peu près upgradé, quoi. Comme elle savoure cette fameuse une de Playboy qui a sidéré la France, Marlène Schiappa en rêvait depuis qu'on lui avait proposé en 2022 déjà de poser dans la revue Coquine, autrefois mythique. La ministre qui était déléguée à la citoyenneté à l'époque s'était emballée, insatiable partisane de « il faut parler à tous les Français », bondissant de Sud Radio à France Culture, du Figaro à Télé 7 jours, mais Playboy, c'était quelque chose. L'ultime transgression, l'occasion d'afficher plein phare son pouvoir politique et la puissance érotique qui nourrit sa plume puisqu'elle écrit dans tant d'ouvrages signés sous pseudo ou pas depuis plus de 10 ans. Et je crois qu'elle a écrit notamment des nouvelles érotiques dont Mademoiselle Sunny, la streameuse que j'adore, eh bien, se régale. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs Mademoiselle Sunny, aller voir sa chaîne, alors qu'elle lisait des nouvelles érotiques, pas très bien écrites, nous disait Sunny, écrites par Marlène Schiappa. Seulement, donc Marlène Schiappa rêvait depuis longtemps de faire la une de Playboy, espèce de transgression. Le buzz assuré, elle s'est pas trompée. Seulement, voilà, il y avait des hauts fonctionnaires de Beauvau, donc ministère de l'Intérieur, qui était son ministère de tutelle, ceux qui l'ont empêché aussi de participer à Fort Boyard, par exemple, et qui lui ont rappelé « Madame, vous représentez la République, quand même, donc vous faites pas la une de Playboy, s'il vous plaît. » Donc elle a pas fait. Sauf qu'elle est sortie de l'Intérieur, elle est devenue secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, et elle a fait la une de Playboy. Choix des tenues, robes bouffantes à nœuds, moulantes, bottines, Louboutin, validées par les WA de son cabinet et sa bande de copines, baptisée les L5, comme le groupe révélé par Popstar au début des années 2000 pour les plus vieux. La séance photo a eu lieu début janvier, publication 3 mois après. Poisson d'avril, ont halluciné les députés de la majorité en boucle sur Telegram avant de découvrir, entre des clichés dénudés et pas de Marlène Schiappa, hein, qui n'est pas dénudée, mais dans Playboy, il y a des jeunes femmes qui s'effeuillent un peu. Donc, de découvrir entre des clichés dénudés une interview de Gilbert Collard, hein, l'élu d'extrême droite, Marlène Schiappa citant Pamela Anderson, décolleté pigeonnant, prétendant défendre ainsi la liberté des femmes. Tout ça en plein débat sur la réforme des retraites. Tsunami jusque dans les colonnes du New York Times, s'il vous plaît. Au même moment, bouillait l'affaire du fonds Marianne. Ce projet, l'affaire du fonds Marianne, on va en parler ce matin, à 2,5 millions d'euros lancés par Schiappa en 2020 pour contrer sur le web la propagande islamiste. Ça, c'est bien, hein, sur le fond, ce combat. Ce projet se révèle un fiasco. Certaines associations ont touché de très grasses subventions, genre 300 000 balles, sans production sérieuse. C'est ce qu'ont révélé France 2 et Marianne. Le Sénat a ouvert une commission d'enquête quand même. Merci Tchouknoum pour le troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. Le Sénat a ouvert une commission d'enquête. Le Parquet national financier, une information judiciaire pour détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Marlène Schiappa n'a rien touché personnellement, hein. Mais ses liens avec les associations financières restent à démontrer et sa responsabilité en tant que ministre est en cause. Devant nous, mardi, dans son bureau de la rue de Grenelle, puisque Libération l'a rencontré, les mots sont pesés sur cette affaire. Marlène Schiappa s'exprime. « Je suis sereine, je n'ai rien à me reprocher. L'histoire le dira », balait-elle, citant les politiques injustement traitées dans la boue dans le passé, Pierre Bérégovoy, Dominique Baudis. Elle parle de cabale et elle martèle « Il n'y a pas d'affaire Schiappa ». Il faut, pour elle, reprendre la main, montrer aussi qu'elle n'est pas en disgrâce auprès de l'Élysée. La secrétaire d'État a ainsi appelé Brigitte Macron, a essayé d'approcher Emmanuel Macron récemment lors du sommet Choose France, mais elle n'était pas invitée. Et, vraie histoire, elle est allée au sommet Choose France, vous savez, où le chef d'État rencontrait les puissants chefs d'entreprise pour attirer les capitaux en France. Elle a été éconduite, elle a un peu été mise dehors. Bien sûr, c'était les miens. Bien sûr, you're welcome. Help yourself. Donc, elle s'est pointée au sommet. Elle a été conduite. La scène rapportée par le Canard enchaîné à la fureur de Schiappa, qui dit que cette scène est fausse, est confirmée à Libération par un invité qui était là. Marlène s'est pointée comme une fleur tout en fuchsia. On n'a même pas eu le temps de la saluer. Le chef du protocole lui a demandé de partir avant l'arrivée du président. Le monde de la politique, ce n'est pas un monde toujours très tendre, hein. Ah, c'est très bien joué, Samuel Etienne, bravo. Ah, Marlène, soupire souvent Macron, paraît-il, les yeux au ciel, mi-attendris, mi-agacés. Tant de conseillers, de députés, de ministres sont venus s'en plaindre auprès de lui. Elle serait trop voyante, elle serait trop cheap, trop comme. On la subit tous, dit un pilier de la majorité. Un autre, c'est une calamité, c'est une honte. Des ministres sourient les abusés à l'évocation de son nom. No comment. Ah, Marlène, je joue vraiment comme une daube. Macron en voit de toutes les couleurs avec elle, mais elle est sa création. Elle est là, loyale, combative. Quand les soldats de la première heure ont quasiment tous quitté le navire. Sous des airs dilettantes, Marlène Schiappa est une guerrière. Contrôle fric, disent ceux qui ont travaillé avec elle. Certains bluffés, d'autres sonnés. Même ses détracteurs, pour beaucoup, le reconnaissent. La secrétaire d'État a porté haut et fort la cause des femmes, saisi des sujets autrefois jugés vils, des modes de garde aux violences conjugales ou gynécologiques. Elle ne cesse de faire le buzz, critère majeur dans une époque un peu folle. Pour un président qui est en quête de ministre qui, sans lui faire d'ombre, imprime quand même le débat. Voilà comment, pourquoi Marlène Schiappa est devenue un symbole de la Macronie. Qui l'aurait cru à ses débuts en 2017 ? Pendant la campagne, elle était loin du premier cercle des mormons qui la méprisaient gentiment. À leurs yeux, la Parisienne avait surtout le mérite d'être une femme, espèce rare autour du chef, futur chef de l'État. Elle n'était pas dans les standards macroniens. Avec ses grosses créoles et boucles d'oreilles, ses robes promodes, sa jeunesse tiraillée entre la cité HLM de la Porte de Vanves et le 16e arrondissement de Paris qu'elle découvrit au lycée. Maigre CV, une année en géographie à la Sorbonne, des études de com, petite main dans l'agence de pub Euro RSCG, également au Bondi Blog, surtout influenceuse avant l'heure, avec un blog remarqué par la presse féminine, Maman Travail. C'est là où on commence à parler un petit peu d'elle. Il y a un coup de projecteur sur l'histoire du fonds Marianne, là on va le lire dans un instant. Schiappa fut ainsi un relais dans les municipales de 2014, au bras du maire du Mans, qui l'avait adoubé comme adjointe, ravie de l'avoir surtout investi auprès des jeunes entrepreneuses, plus désinvoltes déjà avec les associations féministes, jugées poussiéreuses. C'est le maire du Mans qui présenta Marlène Schiappa à Emmanuel Macron. Ça a commencé comme ça. Schiappa s'est engagée à fond dans la campagne présidentielle. Elle était toujours entre deux trains, deux comités, deux meetings. C'est Libération qui le raconte. Sa dévotion énergique a beaucoup plu à Alexis Kohler, pardon, le futur secrétaire général de l'Élysée. Brigitte Macron s'est prise d'affection pour la jeune femme. Avec lui, Schiappa n'a jamais joué les vampes. Elle est comme une enfant, glisse un proche de Macron. Mais la groupie s'est ensuite muée en animal politique. La féministe a tâtonné avant d'être portée par le vent de l'histoire et la déferlante MeToo. Elle put alors défendre sa loi verbalisant le harcèlement de rue, allonger le délai de prescription pour les mineurs victimes de viol, obtenir un Grenelle des violences conjugales, d'où sortir de réelles avancées, notamment la formation des policiers, davantage d'hébergements d'urgence. Même les froids technos, les grands machos furent obligés de considérer Schiappa à mesure de ses réalisations, de son travail, et elle s'est alors imposée. Je vais revenir sur l'encart sur l'affaire. Elle prétend être restée une femme de gauche, c'est ce qu'elle dit à Libération. Elle déroule son bilan, la PMA pour toutes, la garantie par l'État du versement des pensions alimentaires, ça c'est bien. Et de 6, merci Benioz 4, merci beaucoup. La régulation des milliers de travailleurs étrangers mobilisés durant le Covid. Certes, nombreux l'ont sous-estimé, le regrettent aujourd'hui. C'est une bosseuse capable, quand elle le veut, d'ingurgiter des dossiers. Elle écrit vite, style efficace pour ses notes. Punchline, elle dort peu, ne boit pas d'alcool. Son obsession, la com, seconde nature pour l'ancienne blogueuse. Quelqu'un me dit, tout en soutenant Nicolas Hulot, Yoaskan, on va en parler dans un instant. L'ancienne blogueuse rompue à gérer des communautés et repérer les sujets qui montent. En 2019, elle arrive sur le plateau de Cyril Hanouna, le trublion de l'Empire Bolloré, avec qui elle s'est liée, Hanouna, après l'avoir convoqué 2 ans plus tôt pour ses canulars homophobes. Il avait une grosse amende à l'époque, une des nombreuses amendes de l'émission. Schiappa l'a aidée à sortir de cette tourmente. Il l'a trouvée marrante, utile, elle aussi, décrypte un proche de l'animateur. C'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêts mutuel. Elle proposa alors à Cyril de venir débattre avec des gilets jaunes, suggéra même que son plateau alimente des propositions de réforme. Schiappa est devenue une habituée de TPMP, ouvrant la voie à nombre de collègues, contribuant à crédibiliser l'émission, écrit Libé, jusqu'à souhaiter que Hanouna, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, souhaitait que Hanouna anime le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. C'est Marlène Schiappa qui avait lancé cette idée. Qu'il s'indigne, les intellectuels, Macron lui a souvent lâché au moins Marlène Braconne sur de nouvelles terres. Elle ira aussi débattre avec Zemmour à la Convention de valeurs actuelles. Voilà. Goût de la castagne, goût du spectacle, peur de rien, Schiappa exécute aussi les ordres élyséens. Aucun problème pour aller défendre Nicolas Hulot quand il fut, en 2018, accusé de viol dans le magazine Hebdo. Article irresponsable, jugea-t-elle. Rappelant à juste titre délibération qu'aucune plainte n'a été déposée contre Nicolas Hulot. D'ailleurs, l'affaire sera classée en 2022 pour prescription. Et quand Gérald Darmanin fut lui aussi l'objet d'une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, sous le coup d'une enquête préliminaire, eh bien Marlène Schiappa accepta illico de monter en défense, a priori à la demande du président, semble dire Libération, au nom du respect de la présomption d'innocence. Nombre de féministes ne lui pardonneront jamais. Didibé. Mais elle y gagnera en juillet 2020 un vrai poste de ministre. Elle n'est plus secrétaire d'État déléguée à la citoyenneté sous l'autorité justement de Darmanin. Voilà. Alors, l'article est très long, je ne vous lis pas tout. Voilà. Question de Libération à Marlène Schiappa, donc, puisque Libé l'a rencontrée. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu tendance à en faire trop sur la com? Elle redresse son buste. Elle rappelle ses actions à Beauvau. Promotion des femmes, formation contre le sexisme, contre l'homophobie. Et puis, elle lâche. J'aime partager les choses, c'est vrai, avec les 85 000 personnes qui me suivent sur Instagram. C'est mon plaisir, moi, je me couche tôt. Je ne fais pas de mondanité, je ne me drogue pas. dit-elle. Elle dit vouloir préserver sa légèreté, cette joie de vivre qu'elle transmet à ses aficionados du cabinet avec ses imitations de Dalida. Ça, j'aime bien. Ses livraisons de gâteaux à l'heure du thé et ses soirées karaoké. Voilà, je vous lis un petit peu et puis après, on lit le petit encadré sur l'affaire du fonds Marianne. Ifatou écrit: Samuel, je suis blogueur. Lorsque tu seras président de la République en 2027, est-ce que tu pourras me prendre en tant que ministre? Non. Moi-même étant un influenceur, je serai mon propre influenceur. Voilà. J'animerai tous les matins un stream. Je parle de mon premier quinquennat, parce qu'il y en aura un, bien sûr un deuxième. J'animerai tous les matins un stream sur l'agenda politique et je prendrai mes décisions en live en faisant des sondages avec le chat. On va se régaler. Rendez-vous en 2027. Je vous lis. Poloche s'en gêne. Je veux bien croire qu'elle fait de son mieux, mais le problème, estimes-tu, c'est qu'elle prêche tout et son contraire. Vraiment cool de découvrir d'autres facettes de cette personne. Evelyne, je suis assez d'accord, le papier de Libé est vraiment bien écrit. C'est quoi le fonds Marianne, dit Twitch, KMKH? On en parle dans un instant. Oui, on fera des prédictions, bien sûr. Le chat, comme conseiller des ministres, exactement, Nexodis, c'est le principe. Le conseiller, il n'y aura pas de ministre, hein, je serai seul au pouvoir. Je vais vous réformer tout ça, moi. Et le conseil des ministres, ce sera le stream, le chat tous les matins. Est-ce que je continuerai? Question pour un champion. Je verrai, chocolat bicyclette. Je verrai. Pas sûr. Je verrai. Ne voudrais-tu pas l'avoir en invité, Samuel, dit Lars Plendia. Non, je ne reçois plus d'invités politiques sur Twitch. Puisque le chat me servira de conseiller des ministres, Flo 2.0 le tente, est-ce qu'on pourra avoir un salaire de député ou de ministre? Non, pas déconner, là vous êtes 3000. Et les finances publiques? Les 3000 milliards d'euros de dette de la France, ça ne vous parle pas, ça? Les taux d'intérêt qui remontent, ça ne vous remonte pas. Les agences de notation qui veulent baisser la note de la France, non, ça vous n'en parlez pas, ça. La crise de l'hôpital public, les moyens manquants à l'éducation nationale, tout ça, ça vous... Non. Vous demandez, et ça veut des jetons de présence, ça veut des salaires. Eh ben. Est-ce qu'il faudra être sub pour voter pour les décisions? Je verrai. Bravo. Isang, pas ça, Lubon, qui suit un peu toutes les bêtises que je dis. Pourtant, c'est notre idée. Et donc, ça devrait être la tienne aussi. Ouais, bravo. Est-ce que les modérateurs pourront sortir de ta cave lorsque tu seras président de demande Anonyme 31? J'étudierai votre cas. À minima, j'améliorerai un petit peu l'ordinaire. Vous aurez le droit à tous les matins, désormais, à partir de mon élection, un petit bol de céréales avec de l'eau froide. Voilà, c'est très très bien, il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà, la lumière sera allumée plus d'heures par jour. Voilà. Pour les raisons d'économie d'énergie, là on est sur une heure par 24 heures, on augmentera un petit peu tout ça. Et il ne soit pas impossible, dans ma grande générosité, qu'éventuellement, ne nous emballons pas, l'hiver il y a du chauffage. Jus de fruits, pas loge sans gêne, comme tu y vas, dis donc. Les promesses en l'air, dit Lisa, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je ne dis ça, je ne dis rien. C'est quoi cette histoire du fonds Marianne? Eh bien, on y va. Vous étiez plusieurs à en parler. Marlène Schiappa, elle en tout cas, se défend de tout favoritisme dans l'affaire qui touche au fond, qui a été créée pour contrer la propagande islamique. Elle sera d'ailleurs interrogée au Sénat la semaine prochaine. C'est un vrai scandale, dit Duvels dans le chat. C'est la première fois que Marlène Schiappa est ainsi mise en cause dans une affaire vraiment sensible. Le fonds Marianne a été lancé par l'ancienne ministre déléguée à la citoyenneté en avril 2021, soit 6 mois après l'assassinat de Samuel Paty, sur l'idée qu'il fallait mieux contrer la propagande islamiste. Sur le papier, je dis bravo, bien sûr, tout le monde dit bravo. Soit l'idée, renforcer les équipes déjà mobilisées sur ce sujet au sein d'un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, en finançant les associations qui parlent aux jeunes sur ces sujets. Encore fallait-il sélectionner ces associations correctement, et c'est là où c'est parti un peu en sucette, un peu beaucoup. Certains candidats au fond Marianne se sont scandalisés du processus très rapide, abscon, un peu mystérieux, qui est ce qui a été le point de départ des enquêtes de France 2, de Marianne, puis de Mediapart, explique Libération, qui ont révélé, ces trois médias, que le travail fourni était parfois extrêmement léger, voire orienté politiquement. 17 candidats ont été désignés pour un montant donc de 2,5 millions d'euros. Schiappa, Marlène Schiappa, n'a participé à aucune réunion de sélection, mais trois membres de son cabinet y étaient. 355 000 euros ont ainsi été accordés à l'Union fédérative des sociétés physiques et de préparation militaire, qui n'a aucune compétence numérique et propose essentiellement des séances de sport de combat, prisées par l'un de ses administrateurs, Mohamed Sifaoui, qui est un journaliste spécialisé dans l'islamisme. Est-ce que le secrétaire général du comité interministériel a favorisé M. Sifaoui? Marlène Schiappa, qui le connaît aussi, l'a-t-elle incité à candidater avant l'appel d'offres? C'est les questions qu'on se pose dans cet effort. Elle se défend de tout favoritisme. J'ai même écrit à mon cabinet que la subvention accordée à M. Sifaoui me semblait excessive. Elle montre à Libé un mail qui a été écrit en février 2021 où elle écrit 300 cas de l'État. Ça me paraît énormissime. Il y a une autre assoce, Reconstruire le commun, qui a reçu 333 000 euros alors qu'elle venait tout juste d'être créée, c'est beau ça, par des jeunes bénévoles proches pour certains du printemps républicain, qui ont produit sur YouTube des vidéos très peu vues pour 330 000 euros. Critiquant entre autres Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo. Bon, moi, tu me donnes 330 000 euros, je vais te faire des vidéos, elles vont être vues. Hein. Filez-moi la thune, bordel! Schiappa n'a jusqu'ici jamais été mise en cause au cours des auditions, mais elle devra répondre de sa responsabilité en tant que ministre. Le Sénat devra l'interroger, tout comme le PNF. PNF qui est le parquet national financier. Voilà. Dromadaire 96 dit 300 000 boules, c'est une saison de backseat. Oui, je sais que Jean Massier est très transparent sur le budget de backseat, et c'est vrai que je crois que ça coûte à peu près ça. Ouais. Gudax écrit, même s'il n'y a pas eu de favoritisme, si les subventions ont été utilisées à mauvais escient, Marlène Schiappa reste en tort. Alors, le mot tort n'est pas forcément le bon, mais effectivement, si je reprends ta phrase, même s'il n'y a pas eu favoritisme, si les subventions ont été utilisées à mauvais escient, alors que c'est elle qui avait lancé l'initiative, en tant que ministre, elle est responsable politiquement, et elle aurait dû suivre ça, le suivre mieux, on va dire. Donc il y a une forme de responsabilité politique, pas personnelle, dans le sens où, a priori, elle n'en a pas profité, elle, mais politique, oui, peut-être. Loïc San écrit, ça ressemble plus à de l'incompétence que du favoritisme. Pourquoi le Sénat et le PNF seulement et pas la justice? Le PNF, je ne suis pas un spécialiste de droit, mais le PNF, c'est la justice. Hein. Le parquet national financier, ça peut mener à une enquête. Manifestement, l'enquête est ouverte. Enquête judiciaire et un procès. Le parquet national financier. Vite, vite, il nous faut Élise Lucet. Bon, les médias ont bossé. Hein. France 2, Marianne et Mediapart. Dans un deuxième tour, nous dit Libé. Palladium V écrit, alors oui, oui, que ce soit de l'incompétence ou du favoritisme, ça mérite sanction, non. Si tous les politiques qui ont été incompétents à un moment de leur carrière devraient être sanctionnés, pas rester grand monde. Et ça vaut pour tout le monde. Moi, vous aussi, voilà, pareil. Bon, enfin, mais après, on n'est pas responsable. On n'a pas de responsabilité politique. Il y a un écrit, il faut voir comment ça marche un cabinet. C'est pas si simple pour un ministre de réellement contrôler ce qui s'y passe. Oui, mais c'est, bah, oui, j'entends, mais c'est quand même son boulot. Que deviennent les personnes qui ont touché l'argent pour faire ces fameuses vidéos, demande la cagette. C'est une très bonne question. Ça n'est pas faux. Ifatou, quand tu oublies de payer tes impôts, on te retrouve en 24 heures. Mais quand tu balances de la thune avec des faux groupes, on ne dit rien et des pecnons récupèrent 330K pour faire 5 vidéos avec 1000 vues. Ouais, c'est pas faux. Voilà pour Marlène Schiappa. Voilà, c'est à lire dans Libération. Excellent dossier. Allez, on parle un peu de sport. Ouais, on parle un peu de sport quand même. Avec le Figaro. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Je surveille l'heure. Je pars à midi. Je pars à midi? Ouais, je pars à... Oh là, il me reste 20 minutes. Je pars à midi, parce que je vais à mon colloque là, sur les sciences cognitives et le jeu à la Sorbonne. Comment je me la raconte. Pourquoi ça ne marche pas, Roland Garros? Pourquoi les Français et les Françaises se font dégager dès les premiers tours? Après le fiasco, est-ce que le tennis français peut rebondir? Vite, un retour gagnant, écrit Yves Tréhard d'abord. On va se pencher sur les raisons du fait que les Français cartonnent pas, quoi, à Roland-Garros. Vite, un retour gagnant, écrit Yves Tréhard. Deux petits tours et puis s'en vont. Deux tours, c'est que dalle. Aucun des 28 Français, garçons, filles engagés à Roland-Garros n'a pu aller au-delà du deuxième tour. Mais où sont-ils? Que font-ils? À quoi jouent-ils? Au tennis, a priori. Hein. Les enfants de Noah, 40 ans après son triomphe, portent d'auteur. Le dernier Français qui a gagné Roland Garros, c'est Yannick Noah. Du panache, de la vélocité, de la fureur de vin quand le public en redemande. Il est prêt à chanter la Marseillaise à plein poumon jusqu'au bout de la nuit, comme il le fit d'ailleurs mardi devant un Gaël, mon fils brillant, mordant, virevoltant. L'enchantement fut malheureusement de courte durée puisque mon fils a été obligé de déclarer forfait sur blessure. Caroline Garcia, je crois qu'elle est cinquième mondiale. Je zoome un petit peu là, parce que vous êtes distrait par Virginie Fira. Caroline Garcia, éliminée. Voilà. Les autres sortis sans gloire. Quel naufrage, écrit Yves Tréhard. Le même bilan qu'en 2021. Et avant, c'était guère mieux. À ce point-là, ce ne peut pas être la faute à pas de chance. Certes, il en faut un petit peu, mais qu'est-ce qui manque? Au tennis tricolore, se demande Yves Tréhard ce matin. Les Tsonga, les Gasquet, les Mauresmo, les Bartoli sont partis ou sur le départ, on cherche de nouvelles pépite. Hein. Certains évoquent un trop générationnel. Ouais, chez les garçons, il y a deux jeunes là qui commencent à faire parler d'eux. Peut-être. Toutes les disciplines, tous les pays en connaissent des trous générationnels, des creux. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de s'en remettre à la fatalité? Riche et structurée, la Fédération française de tennis, qui est la plus sportive, la plus riche de France, s'est détectée et formée les jeunes. Qui sait par exemple que les 4 demi-finalistes du tournoi junior de Roland-Garros en 2021 étaient français? Les 4 demi-finalistes du tournoi junior de Roland-Garros en 2021, c'était des Français. Françaises également chez les filles, les championnes du monde junior 2018, 2019, 2020. Quelqu'un me disait, c'est peut-être le talent qui leur manque. Non, ils sont bons. Ils sont bons jeunes. Et après, finito. Que paso? Est-ce qu'il y a un manque d'ambition? Est-ce qu'il y a un manque d'encadrement? Une fois que la jeune pousse dorlotée devient un adulte livré à lui-même. Ah, la technique est là. Est-ce que c'est la force morale qui fait défaut? Les instances nationales le disent, hein, qui ont créé du coup un pôle mental pour aider les joueurs à se dominer. C'est mental, écrit Machu Coco Banana Split dans le chat. On s'impatiente parce qu'il est difficile de s'avouer durablement déclassé quand on a la chance d'organiser un des plus grands, plus beaux tournois du Grand Chelem au monde. Alors vite, un retour gagnant. Retour gagnant, excellent. Elle est bonne celle-là. Voilà. Le forum sur les sciences cognitives cet après-midi à la Sorbonne, Zoswan, est-ce que c'est diffusé sur quelque part sur Twitch? Je crois pas. Je crois pas. Il faut venir voir. Il faut venir en présentiel. Voilà. Si tu es dans le coin, bien sûr. C'est pas tout. Justement, on va creuser cette histoire de fragilité mentale. Est-ce que c'est ça, en fait, un mental qui est pas assez... Est-ce que c'est un mal typiquement français? Petit encadré dans le Figaro. J'aimerais juste que des joueurs français gagnent. Pour moi, le côté loser du sport français est incarné par le tennis. Je crois surtout beaucoup à la culture, à l'histoire que l'on te transmet. Je pense qu'on n'a pas une bonne grille de développement. Je suis sûr que si on change ça, on aura des joueurs qui vont gagner des grands chelems. Qui dit ça? C'est Gilles Simon, ex-6e joueur mondial. Comme la majorité des joueurs français, le Niçois concède avoir trop longtemps délaissé l'aspect mental jusqu'à ses 26 ans. Son compatriote Joe Wilfried Tsonga a attendu encore plus tard 31 printemps pour s'en préoccuper quand Alizé Cornet, que vous voyez ici sur la photo, autre tête d'affiche du tennis français et championne précoce, puisqu'à 18 ans elle était 16e mondiale, elle n'a commencé son travail de méditation que récemment et confie aujourd'hui que ce point de vue est devenu prioritaire à ses yeux. Parfois caricaturée, la faiblesse mentale des sportifs français est une triste réalité au sein du tennis hexagonal, une lacune qui n'explique pas à elle seule le nouvel échec tricolore en Roland-Garros, mais qui y contribue. Il y a bien un problème de mental, de préparation de mental, hein. C'est ce qu'on dit. J'ai longtemps délaissé cet aspect parce qu'on n'était pas sensibilisé en France à travailler dessus, a récemment dit Alizé Cornet. Dans un remarquable essai sur le sujet, Nadal, Federer, Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ces champions et booster votre mental, Christophe Bernel, ancien responsable du pôle mental auprès des 12-20 ans de la FFT, témoigne de la réticence du milieu, justement, à faire une place à ce travail spécifique, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il est jugé indispensable, et pas depuis hier, depuis des décennies. En France, on ne travaille pas assez dans ce domaine, tout simplement, tranche l'ancien joueur professionnel. Quand je suis arrivé à la FFT en 2020, FFT, Fédération Française de Tennis, j'ai découvert qu'il y avait 16 entraîneurs dédiés au tennis, 8 au physique et 0 à plein temps pour le mental. C'est pas un hasard si Alcaraz et Swiatek, les deux numéros 1 mondiaux, travaillent étroitement avec des psychologues, déclare ce monsieur. Dans un sport individuel comme le tennis, l'aspect mental est primordial. Mais en France, on ne fait appel au psy que quand ça va mal, en oubliant que cette médecine doit aussi être préventive. C'est possible d'aller loin en étant français, positive, Noah. Mais c'est plus difficile, dit l'ancien champion, quand tu es français, d'être champion. Tiens, il faut aller un peu te nourrir ailleurs parce qu'on est habitué à perdre en France. L'auteur du livre prend pour exemple l'implication des plus grands sur le sujet comme Novak Djokovic. Il lit avec une grande ouverture d'esprit et travaille la méditation avec des exercices respiratoires. Nadal s'appuie lui sur un physiothérapeute qui pratique la thérapie holistique, considérant qu'on ne doit pas travailler séparer le travail du corps et de l'esprit. Quant à Federer, lui a eu recours à un psy, notamment de 17 à 20 ans. Le psychiatre synthétise la politique de formation à la française. Nos espoirs insistent sur le travail physique, sur le travail technique, répètent les exercices sans ménager leur esprit, en oubliant parfois la notion essentielle de plaisir dans le jeu. Moteur commun, explique ce psy aux géants Djokovic, Nadal et Federer. Un problème de mental, de préparation mentale, d'oubli que le jeu, la compétition, doit rester un plaisir. Le plaisir qui aide à être performant dans la durée. Et je suis assez d'accord avec ça. Et vous? Auprès des livres, crois se souvenir que dès 91, Noah parlait déjà de ce problème. J'ai fait du tennis 12 ans plus jeune et dans les clubs, le mental est très travaillé. C'est fou qu'en pro, ça leur passe au-dessus, dit Jules Piche. Bonjour, un live le samedi matin, que se passe-t-il? Demande Aria Kartoffel, tout simplement, j'ai fait un peu de questions pour un champion récemment. J'ai pas pu streamer autant que je voulais et vous m'avez manqué. Donc on stream le vendredi soir, le vendredi matin, le samedi matin et demain matin, dimanche. On va streamer aussi, je vous donne rendez-vous. aux alentours de 8h30-9h. Ah, la police arrive pour m'arrêter, je ne sais pas si vous entendez. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? MacGyver 9 qui pose pour, je pense, la sixième fois la question. Salut Samuel, que penses-tu de l'émission complétante de Black Seat avec Hollande ? Donc j'ai vu ta question, je pense, 5 ou 6 fois, je n'y ai pas répondu parce que je n'ai pas encore vu l'émission. Comme je l'expliquais à Jean Massier qui était mon invité hier soir, je la regarderai en replay, mais j'étais un peu busy mercredi soir et je n'ai pas vu cette émission, sûrement excellente parce que Black Seat, parce que Jean Massier. Oui, la personne a écrit Black Seat. Donc je lis Black Seat. Je pense que c'est une coquille. Est-ce que tu pourrais remettre le tableau droit derrière ? Me demande qui ? Le Mookie Bot. Ok, c'est pour toi. C'est pour toi, hein. En gros, quoi. En gros. Mais la perspective fait que de toute façon, il sera toujours un peu de travers. Traviole. L'article est dans le Figaro. Je me sens mieux. Merci, Samuel. Bookiebot, je suis là pour vous. Hein. Je suis là pour votre confort intellectuel, psychologique, votre équilibre aussi. Voilà. Je vous rappelle que regarder ce stream garantit le retour de l'être aimé. Si l'être aimé, si l'amoureux, l'amoureuse est parti récemment, voguer sous de belles latitudes, chercher. Plus fort, plus passionné, plus... elle va revenir. Regardez ce stream, garantit le retour de l'être aimé. Voilà. Garantit la réussite aux examens, aux entretiens d'embauche, voilà. Aux jeux de hasard, type Euromillion. Voilà. Et je peux aussi réparer à distance les pannes moteurs de berline allemande. Voilà, c'est un truc que je fais. Voilà. Mais par contre, c'est des streams en one-to-one. Contactez-moi en MP, on se fait un petit live à deux. Voilà, vous me décrivez à peu près le problème de la panne technique sur les berlines, un peu les SUV, mais c'est plus compliqué. Allemande, j'ai plus de facilité sur ce type de moteur. Et à distance, en fait, je peux vous résoudre à peu près n'importe quel problème. Bon, n'hésitez pas. Bon, c'est un petit coup, mais on voit qu'il est très raisonnable. Le marabout voiture, c'est donc moi. Oui, tout à fait, ouais. Samuel, est-ce que tu agis sur d'autres types de pannes ? Tu sais, les pannes de... Oui. Je résous aussi ce genre de pannes. Mais c'est plus cher, parce qu'on est vraiment sur des choses un peu importantes. Donc, oui... Je peux aussi résoudre ce genre de problème. Voilà. La tornade fière, si je dois rendre mon compte rendu de stage dans 3 jours et que je mate ton stream au lieu de bosser aussi, ça va m'aider. Non, ça je fais pas ça. À un moment, il va falloir que tu fasses ton rapport. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Il a tout dit. Samuel, tu parlais bien d'une panne de réveil. Je dis oui, bien sûr. Bien de ça dont je parlais, bien sûr. Évidemment. Ok, la vigueur Étienne, merci Captain McBernick. Bon, les amis. Oh non, non, on arrive déjà à la fin de ce stream, il ne reste plus qu'un gros article. Pff, triste, 2h26 en même temps, il faut que j'aille mon truc après. C'est bien, ça je vois le temps peut-être. Oh là, oui, dans 8 minutes, c'est la fin de ce stream, donc on est carrément sur un bon timing. Ok. Bon. Les gars, les filles, globalement, si je vous dis. La consommation de viande en France abaisse, hein, c'est votre sentiment. Les gens mangent moins de viande qu'avant, hein, on diminue leur consommation de viande, certains sont devenus végétariens, c'est le sentiment général. Que nenni, c'est pas vrai, c'est faux. Floxis nous dit qu'il nous regarde avec son papa, eh bien, je vous remercie tous les deux et je vous salue. Que nenni, Bill Vesey, Fantasy, regardez-moi ça. Les Français mangent toujours plus de viande. What ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Lisons. Mais oui, moi aussi, je trouve ça fou. La moitié des Français affirment avoir réduit leur achat de viande. Pourtant, la consommation individuelle s'est accrue de 3% depuis 10 ans. Les Français ont l'impression de manger de moins en moins de viande. Certains le font sûrement. Et en fait, la consommation individuelle continue de monter. Qu'est-ce qui se passe? Veni propose une hypothèse. C'est les salauds de jeunes, ils n'en ont rien à taper, ils vont à Burger King tous les jours. Peut-être un élément de réponse, on va voir. La consommation totale est en hausse de 50% depuis 1970. Nom de Dios! Alors que l'engagement de neutralité carbone en 2050 suppose de limiter drastiquement notre consommation de viande. Abaisser la quantité de viande répond à un double objectif de lutte contre le changement climatique, j'espère que vous le savez quand même, mais aussi de santé publique. Hein, mais le sujet reste très sensible, histoire d'agriculture, de lobby aussi. Un Français consomme deux fois plus de viande que la moyenne mondiale. Les Français mangent toujours plus de viande, donc voilà. Ça, c'est vraiment une idée reçue qui, paf, s'écroule. Vous entendez? Vous entendez le bruit de l'idée reçue qui s'écroule? Ça fait... un truc comme ça, à peu près. Depuis 2013, la consommation individuelle a augmenté de 3% avec une hausse de 16% pour la volaille. Vaille, vaille, c'est le poulet. C'est le poulet. Hein, quelqu'un disait, c'est la faute des jeunes qui vont au Burger King. Je dis non. Je dis manifestement, c'est la faute des jeunes qui vont au KFC. J'accuse... comme Zola en son temps, j'accuse les beignets de poulet. C'est pas comme ça qu'on dit les nuggets. J'accuse. Lisons. C'est un rapport sur la Cour des comptes sur les aides aux élevages bovins récemment qui a mis le feu, publié le 22 mai, qui note que pour que la France tienne ses engagements climatiques, notamment la neutralité carbone en 2050, et la réduction des émissions de méthane, elle doit planifier la baisse de ses cheptels bovins qui représentent environ 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. 12% des émissions en France des gaz à effet de serre, ça vient des vaches. Et on en a parlé ici, plus des rots des vaches que des proutes des vaches, et c'est vrai, c'est scientifique. Vous irez voir sur internet. Donc, la Cour des comptes nous dit qu'il faut baisser les élevages bovins. Là, en France, ça ne va pas du tout. Publication qui a suscité un tollé auprès de qui? De la filière, des éleveurs. Hein, et a reçu une fin de non-recevoir du ministre de la Culture qui a dit finis vos bêtises là. Arrêtez de taper sur les éleveurs. Mais la Cour des comptes précise bien que la baisse de la production de viande doit aller de pair avec une politique de diminution de la consommation. Tous les scénarios de neutralité carbone en 2050 pour la France prévoient pourtant une réduction de cette production de viande en France avec de consommation de viande en France avec des ampleurs variant de 20 à 70%, et la stratégie... Attends, elle parle de consommation ou de production, c'est pas clair. Ah oui, c'est ça, oui. On parle bien de la consommation, je voulais vérifier. Je reprends la phrase. Tous les scénarios de neutralité carbone en 2050 pour la France prévoient pourtant une réduction de celle-ci avec des ampleurs variant de 20 à 70%. Et la stratégie nationale bas carbone adoptée par la France fixe bien une trajectoire de baisse dans la fourchette basse de 20%. Réduire la consommation de viande répond également aux objectifs de santé publique puisque la viande, tout particulièrement la viande rouge et transformée, entraîne des effets négatifs sur la santé lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité. Les chiffres suggèrent pourtant l'inverse. Non seulement les Français ne baissent pas leur consommation de viande, non, mais si on fait une moyenne, bien sûr, elle augmente. La consommation totale de viande en France a augmenté sur le long terme, passant de 3,8 millions à 5,8 millions de tonnes entre 1970 et 2022. Et la seule croissance démographique ne suffit pas à expliquer cette hausse. La consommation individuelle entre donc 1970 et 2022 a augmenté de 12%. Pourtant, quand les Français sont interrogés sur leurs pratiques alimentaires, près de la moitié disent avoir réduit leur consommation de viande. Un quart d'entre eux se disent flexitariens. Il y a un truc qui ne va pas. Les Français, dans leur majorité, disent qu'ils ont baissé leur consommation de viande. Et pourtant, ça augmente. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Hombre, qu'est pas ça? Cette différence, dit une chercheuse, entre ce qu'on voit dans les sondages et ce que montrent les statistiques, est troublante. Il y a un changement dans les esprits, mais pas un changement encore dans les assiettes. Et pas pour tout le monde, quoi. C'est une chercheuse qui s'appelle Lucille Rogissard qui a bossé là-dessus, qui l'explique. La cause de cet écart de perception tiendrait aussi, ça c'est vachement intéressant, vous allez comprendre, à la consommation entre guillemets cachée de viande. Les Français achètent moins de pièces de boucherie. Les Français vont moins chez le boucher acheter de l'entrecôte, du steak. Ouais, c'est vrai. Mais ils achètent plus de produits transformés, de plats préparés, et consomment davantage hors domicile. Or, lorsqu'ils n'ont pas une entrecôte au centre de leur assiette, mais un poulet, un sandwich au poulet par exemple, eh bien, les consommateurs ont moins conscience de manger de la viande. Il y a de la viande cachée. Il y a de la viande cachée dans nos sandwichs. Il y a de la viande cachée dans nos salades. Voilà. Non, le cannibalisme, Cletus Bright, n'a rien à voir avec cette histoire-là. Par ailleurs, l'offre alimentaire ne leur permet pas toujours de faire le choix du végétal. Il y a une étude en février qui a montré que dans 150 supermarchés étudiés en France, l'offre de plats préparés était très déséquilibrée, 92% des refs comprenant de la viande ou du poisson. Voilà. Intéressant, hein. Voilà, la viande dans la bolognaise, par exemple. Super, là, ouais, exact. Et il y a qui le qui tombe des nues. Il y a qui le dans le chat qui tombe des nues, qui dit quoi ? De la viande dans un sandwich au poulet ? Je sais, c'est incroyable. Moi aussi, je suis tombé de ma chaise. Voilà. Je ne suis pas tombé de très haut, je ne me suis pas fait très mal, mais eh oui, dans un sandwich au poulet, il y a de la viande. C'est incroyable. Heureusement que, voilà, je vois que ça fait réagir certains. La cape rouge écrit à l'instant, j'arrête le kebab et je ne prends désormais plus que des tacos. Voilà, on va y arriver. L'analyse des données montre en tout cas que l'évolution spontanée de la consommation ne suffira pas à atteindre les objectifs établis dans les scénarios de neutralité carbone. Il va falloir faire quelque chose. Jusque là, il y avait espoir que la baisse de consommation de viande se fasse toute seule. Faut que je vous laisse, j'ai mon taxi qui arrive. Ça tombe bien, c'est la fin de l'article. Les politiques publiques visant explicitement la réduction de la consommation de viande se comptent sur les doigts d'une main. Donc, puisque la consommation de viande ne baisse pas au titre individuel, eh bien, ça va être aux politiques, aux pouvoirs publics, de mettre des trucs en place. Alors, il y a un truc qui existe, qui est la recommandation inscrite dans le Programme National Nutrition Santé, le PNNS pour les intimes, de limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine, la charcuterie aussi à 150 grammes, mais c'est un PNNS qui est assez peu médiatisé, sauf ici. L'autre politique plus visible a été introduite dans la loi Egalim de 2018 avec l'expérimentation de menus végétariens hebdomadaires dans les cantines scolaires. Il a été confirmé pour toute la restauration collective publique. Ça, c'est bien. Voilà. Mais il y a un problème. La restauration collective, ça concerne pas plus de 5% de tous les repas pris en France. Le calendrier se prêterait à une action plus volontariste, estime Le Monde. Plusieurs textes stratégiques devraient être débattus dans les prochains mois. Les représentants de la société civile espèrent que les débats à venir permettront notamment de placer la grande distribution et l'industrie agroalimentaire devant leurs responsabilités dans cette transition alimentaire. La chercheuse dont on parlait tout à l'heure, Lucille Rogissard, dit « Il s'agit d'offrir davantage d'options et de liberté aux citoyens dans la maîtrise de leur alimentation, donc avec moins de viande dans les plats préparés notamment. » Avec un enjeu majeur sur les prix, beaucoup de ménages font leur choix en fonction de leur portefeuille, notamment sur les plats à préparer, mais les prix payés ne sont pas représentatifs de ce que ça coûte à la société. Si on intégrait le coût de toutes les externalités négatives, la viande industrielle reviendrait beaucoup plus cher que la viande issue d'élevage extensif ou biologique. Il faudra un jour qu'on se pose la question du prix. Pop ! Quand je fais ça, qu'il n'y a plus rien derrière, c'est que c'est terminé. Les amis, je vous laisse, je vous abandonne comme des vieilles chaussettes. Mais je vous retrouve demain matin pour un stream. Je filoche, mais on va faire un raid, bien sûr, ne bougez pas. Et oui. Bah, pour faire un raid, il faut faire tout ça. On fait un petit raid. Là, je vais à mon forum Brainsplay sur les liens entre sciences cognitives et les jeux. C'est à la Sorbonne. Vous êtes cordialement invité. L'horoscope, on l'a fait. Valentina, tu viens d'arriver. T'es en retard. Écoute, mon chouchou. C'est en replay. On a fait Sagittaire, je crois. On fait un raid. Je vous laisse me proposer maintenant dans le chat des noms de streamers. Merci, Sebilo, pour le prime. C'est très gentil. Merci du soutien. Des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Mais, dont on va éclairer le travail. On peut encore s'inscrire, je pense, ouais. Je vous mets 2 minutes de musique, 2 minutes de pause, 2 minutes de pub pour certains, et on raid tous ensemble pour appuyer un petit peu le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Let's go, à tout de suite. Pas mal ça. Ting, ting. Alors on va où? Où qu'on va? On va être dans 20 secondes. Go ! La destination est trouvée. Je ne connaissais pas encore cette chaîne qui s'appelle Bûche en bois. Une streameuse qui est en live actuellement, c'est un stream caritatif au profit d'SOS Homophobie. Bon, eh ben tout ça me semble bien cool et bien sympa. Je dis bravo à elle. Bubuche en bois, Bubuchenbois. Je charge le raid. Bubuche en bois. Voilà, c'est en train de charger. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et la planète n'en sera que plus cool. On se retrouve demain matin pour un stream de revue de presse. Merci pour ce matin, je me suis régalé. Je vais à la Sorbonne. Vie de fou ! C'est parti pour le raid. Merci encore. À très vite, ciao.
Lancez votre petit personnage dans les airs.